D'ailleurs, ce qui fait penser que t'as commencé l'enregistrement depuis tout à l'heure. Oh fuck, je parlais sans me. Eh ben, alors ne dis pas le mal que j'ai dit de mes copines, s'il te plaît, tu les passes. You are so close. Bienvenue dans Matage de série volume 5, le podcast bonus de Il faut qu'on parle, où on spoil sauvagement les séries. Le printemps arrive et nos séries avancent inexorablement vers leur fin de saison. Alors il est temps de faire un petit point sur nos visionnages respectifs. Je vous rappelle les règles du jeu. Dominique, dis bonjour Dominique.
Bonjour.
Je croyais que tu allais dire bonjour Dominique, mais même pas. Et moi-même.
J'ai oublié mon texte.
Dis bonjour Dominique.
Bonjour Dominique.
Et moi-même, Yaël, avons décidé de parler en détail de plusieurs séries que nous suivons parallèlement. Deux que nous admirons, Crazy Ex-Girlfriend et Superstore, et deux que nous aimerions aimer autant, mais faute de mieux, nous allons parler de ce qu'elle pourrait faire pour s'améliorer. Marvel's Agent Carter, saison 2, et Lucifer. Oui, 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 nous ne plaisantons pas, nous allons parler de Lucifer, mais je vous rassure, Dominique ne regarde pas. On va commencer par parler de Superstore, et vu que c'est techniquement la série que tu as choisie, je vais commencer par en parler juste une petite seconde. J'ai dit, il me semble, la dernière fois que ce que j'aimais, c'est que c'était en fait une workplace comedy, c'est-à-dire une sitcom qui se passe dans le milieu du travail, et que surtout c'est des gens qui ont des boulots de merde, et c'est important de montrer ça sans pour autant vraiment ni se moquer d'eux, ni du milieu, ni du travail, et ça c'est bien. Et voilà, je sais pas si j'ai vraiment précisé que j'avais un amour sans borne pour America Ferrara, parce que je pense que Glibetti est une excellente série qui n'a pas les lettres de noblesse qu'elle mérite. Moi, j'ai beaucoup aimé toute sa diffusion, avec des moments particulièrement drôles. Moi, j'ai souvent eu ce moment, tu sais, où quand tu regardes une série tout le temps, et il y a des moments, des épisodes, où tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle est bien cette série par rapport à ce qu'on pourrait en attendre.
Ouais.
Tu vois, c'est le genre de truc, tu fais pas attention parce que tu regardes toutes les semaines et que c'est 22 épisodes par saison et que personne n'en parle. Et en même temps, des fois, tu regardes le truc et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est bien fait, qu'est-ce que c'est drôle. Et quand tu revois, moi j'ai revu la saison 1, je crois que j'ai pas revu la suite, mais j'avais revu la saison 1, ou j'ai revu la saison 1 plusieurs fois alors que j'ai vu la suite que moins de fois. Et en fait, j'étais frappée par la qualité au revisionnage, l'intelligence avec laquelle c'est construit, tout ça. D'accord. Donc, toujours est-il que America Ferrara, je l'adore. Effectivement, tu l'as dit la dernière fois, elle était très 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 bonne dans The Good Wife aussi.
Oui, moi c'est surtout de là que je la connais, parce que je n'ai pas regardé Ugly Betty, mais je peux pas tout
non,
voir.
Non, mais en tant que scénariste, je te conseille de regarder le pilote, qui
D'accord.
est un bon exemple de comment tu peux introduire un truc à la fois évident, et surtout je trouve que dans sa réalisation est intéressant, parce que comment faire d'un truc cliché un truc dynamique. Parce qu'il y a un truc... T'as vu le film avec Audrey Hepburn qui se passe dans le milieu de la mode, où elle, c'est une intello bibliothécaire, mais elle accepte d'être cover girl pour pouvoir aller à Paris et aller dans les cafés intello du Marais. Funny Face.
D'accord.
Je te conseille de le voir, c'est un grand film. Enfin, c'est un film particulier, mais c'est un film qui a des scènes légendaires. Et, une des scènes légendaires, c'est que ça, en gros, c'est, je sais plus si c'est vraiment Vogue ou si ça ressemble à Vogue, mais c'est dans un magasin, magazine féminin.
C'est vaguement Vogue.
Ouais, c'est ça. C'est vaguement Vogue. Et en fait, tout le début, il y a un truc avec les couleurs et la. Enfin, en fait, le début d'Ugly Betty est un hommage à ça.
D'accord.
Rien que les décors d'Ugly Betty sont géniaux. Franchement,
j'ai vu ni rien, ni l'un ni l'autre, donc je vais te croire sur parole.
Bah, c'est des trucs de nana, mais il est temps de démocratiser la culture. Moi, je regarde bien les trucs de mecs.
C'est le nombre de trucs de nana que je regarde, ça va.
Oui, et puis surtout, moi, je suis à 7 sabres laser à la maison, donc il est temps de démocratiser tout.
Je suis battue.
Bon, j'avoue, les 7 ne m'appartiennent pas, mais c'est pas grave. Il y en a quand même 7 dans la maison, dont 4 rouges. Je tiens à le préciser, nous avons l'obscurité gagne la maison.
Quel étrange projet de série, 7 sabres laser à la maison.
Donc 4 rouges, non. Tout ça pour dire qu'America Ferrara, je l'adore. Ben Feldman, je l'adore parce qu'il était génial dans Mad Men. Mais avant ça, il était génial dans Drop Dead Diva, un autre truc de meuf.
Que j'ai pas vu.
Qui a aussi des trucs, je dirais juste pour Drop Dead Diva, parce que décidément ma tâche de série maintenant c'est devenu le truc où on spoil les autres séries. Mais un des trucs qui est fascinant sur Drop Dead Diva, donc tu vois le concept de base.
Oui.
Donc je rappelle pour ceux qui n'ont jamais vu, c'était sur Lifetime à l'époque, il me semble que c'est une des premières séries Lifetime, bien avant Unreal. Donc à l'époque c'était vraiment la chaîne au téléfilm M6 pour meufs.
C'est exactement ça.
Et Drop Dead Diva, c'est l'histoire d'une top modèle de 22 ans, toute mignonne, un peu conne, qui meurt et qui, quand elle arrive au paradis, dit « Ah non, non, mais c'est une erreur » et embrouille le... Pardon, embrouille. Et embrouille le présupposé à l'envoyer à la prochaine étape, qui est joué par Ben Feldman. Et appuie sur return ou un truc comme ça sur son clavier d'ordinateur et est renvoyée sur Terre. Sauf que vu que son corps a déjà, c'est déjà mort, elle est renvoyée dans le corps d'une nana qui est en train de mourir à ce moment-là, qui est une avocate brillante, mais d'un poids certain. Elle fait plus de 100 kilos et c'est en gros une femme grosse, tout simplement.
D'accord.
Et du coup, cette âme de starlette idiote se retrouve obsédée par les fringues et tout ça, se retrouve dans le corps d'une nana qui ne s'aime pas physiquement, mais par contre très intelligente. Et donc du coup, elle a son intelligence.
D'accord.
Mais sauf que elle n'est pas habituée, alors du coup, il y a des trucs qui lui arrivent dans la tête et ça lui fait mal à la tête, genre « Wow, je viens de réaliser un truc que j'avais appris », parce qu'en fait, elle a accès aux connaissances de Jane, le corps qu'elle habite. Mais elle avait toujours, ça donne quelque chose d'assez fascinant parce que c'est tout d'un coup une femme qui se sentait mal dans sa peau, qui tout d'un coup a l'assurance et la confiance en soi d'une fille qui a toujours été la plus belle de sa classe. C'est fou, mais c'est génial. Et le créateur, un jour, dans Nerdist Writers Panel, un jour, il a dit c'était basé sur sa grand-mère qui avait survécu les camps nazis. Et qui était donc une petite vieille, toute petite vieille, qui en gros se comportait comme si elle était un géant de 2 mètres et qu'elle n'avait peur de rien ni de personne. Et que c'est là-dessus qu'il a basé Jane. Tu vois, peut-être Diva. Et toujours est-il que du coup, le présupposé qui s'est fait arnaquer, en punition, il est envoyé sur Terre pour être l'ange gardien. Et pendant les 3 premières saisons de Drop Dead Diva, il joue l'ange gardien. Et tu sens que c'est le mec qui découvre la Terre et qui est là, ah, c'est trop cool. il a un rôle un peu loufoque, mais il est très drôle. Parenthèse fermée.
Superstore, c'est comment regardez Ugly Betty et Drop Dead Diva.
Mais en fait, you should. Mais bon.
Si vous avez le temps.
Ouais, prenez le temps, partez en vacances. Donc j'ai plein de raisons d'aimer ces gens-là, parce qu'en plus, ces deux séries, comme c'est pour ça que j'en parle, c'est des séries dont on n'a pas beaucoup parlé, que beaucoup de gens ont regardé avec plaisir, mais finalement, c'est jamais des trucs auxquels on a apporté beaucoup d'attention, alors que moi, je trouve que c'est des séries qui ont fait plein de choses, notamment sur les personnages féminins, qui sont intéressants. Ugly Betty, il y a un truc assez génial sur le fait que... elle est effectivement le fait qu'elle porte un appareil dentaire et des lunettes et qu'elle s'habille bizarrement et tout est un désavantage parce qu'elle bosse dans un magazine de mode, mais en fait elle est surtout jugée par les autres femmes et par l'assistant de l'ennemi du patron qui est gay. En fait, mm-hmm. Elle a jamais de problème avec les mecs à cause de ça. Betty, elle a tout le temps des mecs. Elle a eu plusieurs. Je crois qu'elle a 3 mecs différents dans la première saison. Et donc c'est vraiment intéressant cette série qui pose la question de Ugly Betty, ugly pour qui en mm-hmm. fait, pour les autres nanas qui la jugent, pas pour les hommes de sa vie. Donc voilà. Et Drop Dead Diva, c'est un peu le même combat quoi. Donc c'est pas inintéressant que ces deux séries soient en lien. Et j'avoue que Superstore, c'est pas inintéressant. Enfin, il y a aussi de ça dedans. Il y a le fait que c'est des personnages, à part finalement le principal, Ben.
Oui.
Il ne s'appelle pas Ben. Je ne sais pas son nom dans l'histoire parce que... Mais Ben Feld, joué par Ben Feldman.
Jonah,
oui, c'est ça. En fait, on est face à des gens. Il y a un mec en chaise roulante. Ouais. America Ferrara, moi, je la trouve sublime. Mais elle ne correspond pas au canon de beauté de... Je t'en pensais. Margot Robbie, par exemple. Robbie Margot. Non, c'est Margot Robbie qu'elle s'appelle.
On peut l'appeler Robbie Margot, si tu veux.
Que j'aime beaucoup, par ailleurs, parce que j'ai vu en interview avec Tina Fey pour leur nouveau film. Elle a l'air explosive, cette nana. Donc...
Et dans Suicide Squad, elle a l'air assez incroyable, en fait.
Bah oui, en
et
plus, elle joue Harley Quinn.
Oui. Et c'est pas forcément un rôle super facile.
Non, mais j'ai très, très hâte de voir ça.
Mais moi aussi.
Et physiquement, America Ferrera, c'est pas exactement ça, mais on est d'accord, elle est sublime quand même.
Ah non,
elle a un charisme, un sourire d'enfer. Et il y a bien sûr l'autre personnage féminin qui est pas du tout féminin.
Qui est plutôt assez carré, qui aime bien la chasse. Enfin, voilà. Et malgré tout, ça, de l'extérieur, ça pourrait donner un petit peu l'impression que c'est une cour des miracles où t'as un petit peu que des gens à la marge et tout ça. Ou au contraire, vu que c'est une comédie américaine, un peu d'angélisme et un peu de tout est super, tout est rosé. Non, du tout. C'est assez surprenant, mais c'est super réaliste, je trouve.
C'est ça, c'est très, très, très humain.
Totalement.
Mais c'est pour ça qu'en fait, quand tu m'as fait remarquer que le mec, c'était le mec de The Office, qui avait bossé sur The Office, c'est pas étonnant, en fait. Il y a quelque chose de vraiment de similaire dans le sens de la... Ouais, il y a des choses très réalistes sur... L'humour n'est jamais tiré de situations cocasses.
Non, puis c'est inimaginable. Pas leur particularité qui fait le personnage.
Non.
C'est pas parce que le mec est en chaise roulante que ça le change particulièrement. Non, il a sa propre attitude. Il est un peu arnaqueur, il est un peu grande gueule.
Ce qui est drôle.
Il est un peu je m'en foutiste. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit en chaise roulante. T'as un autre personnage, le personnage de Matteo, qui est hyperactif, qui veut faire tout bien, qui est un peu premier de la classe. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit gay, et tu l'apprends que de sa bouche, en tout cas, que très très tard, même si tu t'en doutes un petit peu.
Nous n'allons pas parler jusque-là parce que.
On va s'arrêter à l'épisode 4.
Voilà, en fait, on veut profiter de Superstore.
Voilà,
donc on
va pas.
Clairement, la saison est terminée.
On va pas binge-reviewer la série.
Donc là, on fait épisode 1 à 4. Le 4, c'est Mannequin. Donc c'est celui avec les mannequins. Pour ceux qui l'ont vu, vous voyez très bien duquel on parle. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez regarder Superstore. Reprenez le podcast après. Sinon, le timecode pour la prochaine série, c'est dans le post.
On peut pas le dire à l'avance. Désolé.
Non, on a essayé, mais vu qu'on est absolument incapable de se contenir au niveau de temps, c'est pas possible. Donc, oui, non, je suis tout à fait d'accord. En fait, je pensais au mot diversité.
Ouais.
Mais diversité psychologique et diversité au sein même des personnages. C'est-à-dire que les personnages ne sont pas une chose.
Et d'ailleurs, ils abordent même le sujet de manière très frontale à l'épisode 3, en fait.
Oui, oui, absolument.
Qui s'appelle Shots and Salsa. Où en fait, donc, ils doivent lancer un nouveau produit qui est une sorte de sauce mexicaine pour les quesadillas. Et forcément, le patron, le responsable du magasin décide de demander à Amy, parce qu'elle est d'origine latine, elle tique, elle veut pas. Résultat, il se tourne vers Matteo, qui n'est absolument pas.
Il est philippin, non ?
Il est philippin.
Décidément, et t'as encore un philippin ?
Eh oui.
Comme dans Cozy Ex-Girlfriend.
Tout à fait.
C'est la emerging.
C'est ça.
C'est la. Mais tu sais qu'il y avait aussi le truc bizarre avec Marc-Paul Gosselaar. La nana était philippine, j'avais
dit
aussi.
Ouais, tu m'avais
dit. Donc c'est quand même troisième personnage philippin de la saison, les gars.
Et les philippins, ça y va. Hein.
La minorité philippine est en train d'exploser l'écran des quotas dans la télévision américaine.
Et au final, c'est une autre,
latino.
Latino qui...
Enfin, latina, d'ailleurs, j'aime bien parce qu'elle dit « je suis latina ». Tu sens qu'il y a tout un langage à utiliser. D'ailleurs, l'autre latina est une des... Pour les gens qui suivent mes conversations sur le late night, et on parlait avec Léa il y a quelques semaines de Larry Wilmore et du Nightly Show, et la latina, c'est une des contributrices du Nightly Show. Donc, elle est comique et elle est dans...
Elle n'est pas dans tous les épisodes, elle apparaît de temps en temps, donc à mon avis, c'est lié à son...
Oui, mais c'est une comique et qui est dans The Nightly Show avec Larry Wilmore.
Et donc, elle accepte de le faire et elle y va à fond dans le cliché. Et ça irrite au plus haut point Amy. Et c'est bien parce que tu as un vrai dialogue, en fait, sur le racisme, ce que c'est que le stéréotype. Et mais je trouve ça assez malin, en fait. Après, c'est bourré de blagues et forcément, ça...
Non, mais c'est très malin parce que tout ce qui se passe, c'est-à-dire toutes les différentes étapes où ça l'énerve et personne ne comprend, et du coup, elle continue et elle s'obstine et elle refuse de le faire. En plus, je crois qu'à un moment, elle explique la différence entre les portoricains et les mexicains en disant « Vous vous rendez compte que c'est pas du tout au même endroit ?» Et d'ailleurs, je sais plus lequel est lequel, si elle est portoricaine et c'est pour ça qu'elle dit ça. Ou... Mais effectivement, enfin, faut savoir qu'en plus, justement, la... Grace Parra, je crois que c'est ça son nom, la latina qui est d'origine mexicaine, qui finit par faire le truc avec l'accent, elle parlait récemment justement dans le Nightly Show de la problématique des latinos qui vont être un truc hyper important pour les élections américaines, et le problème qu'on en parle comme un sujet alors qu'il n'y a pas un sujet, et notamment le truc principal dans la culture américaine, c'est les portoricains par rapport aux mexicains. Il faut savoir que Porto Rico est un territoire américain, donc ils font techniquement partie des États-Unis mais n'ont pas de droit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de vote. Par contre, ils ont l'obligation de l'armée. C'est merveilleux.
C'est bon, c'est fantastique. Mais t'as un épisode de Last Week Tonight qui traite de ça, justement.
Oui, je pense de Porto Rico. Last Week Tonight de John Oliver, autre disciple de John Stewart, parce que tout est lié.
Regardez-le pour bien comprendre l'absurdité de cet état.
De la situation de Porto Rico.
Merveilleux.
Dans The West Wing, il y a tout un épisode où il y a la question d'un est-ce qu'ils vont faire un timbre à l'effigie d'un défenseur de l'indépendance de Porto Rico? Et du coup, Donna s'amuse à faire des tonnes de recherches sur Porto Rico et sur les déclarations et ce que ça veut dire, les timbres et tout. Enfin bon. Et donc c'est vraiment, donc c'est un truc. Et donc effectivement, les Portoricains, ça veut dire qu'ils ont aussi, par contre, le droit de venir aux États-Unis. Et beaucoup de familles portoricaines viennent aux États-Unis le temps que leurs enfants aillent à l'école américaine pour ensuite retourner à Porto Rico. Le cas des Mexicains est radicalement différent.
Complètement.
Et surtout, clairement, ils ne sont pas du même côté. Enfin, il y a littéralement, il y en a le Porto Rico et
géographiquement, culturellement, enfin,
des États-Unis, c'est pas très loin de la Floride, je crois. Je n'en sais absolument rien parce que je suis nulle en géographie. Sans parler des Cubains, qui sont encore un autre problème, parce que ce qu'elle expliquait justement, c'est un Cubain qui met le pied sur le sol américain est automatiquement un réfugié. Ouais. Alors que les Mexicains, c'est pas vraiment le même délire. Voilà, sans parler qu'il y a San Salvador. Enfin bon. Et c'est rigolo parce que du coup, c'est très présent dans cet épisode.
Oui.
Et en fait, le truc tourne encore plus loin parce qu'il y a en parallèle notre ami Jonah qui essaye d'aider un pharmacien, qui essaie de convaincre Amy que c'est bien d'aider. Non, c'est pas Amy, c'est le mec en chaise roulante qui est absolument génial, qui a mourir de rire, qui est quand même dans le premier épisode, qui est le mec qui fait les annonces, dans le premier épisode, quand il réalise qu'il y a une erreur de prix.
Plutôt que de dire arrêtez de prendre les.
Il dit
maillez-vous,
courez vers la caisse, tout est à 25 centimes, courez à la caisse, dépêchez-vous avant qu'on vous chope. Il montre quand même l'esprit du mec qui dit ça.
Et en fait, il leur dit à Jonah et à Amy, en fait, faut pas s'immiscer. Faut laisser les gens faire leurs conneries. Et donc Amy s'immisce dans les histoires, dans ce truc de cette sauce mexicaine parce que ça la révolte elle en tant que latina. Et Jonah dit non, mais je vais aider ce gars juste à déposer ses cartons.
Et le pharmacien...
il se retrouve embragué dans un truc où en fait il devient l'esclave du pharmacien pendant toute
la journée.
Il doit faire les vaccins. Il fait les vaccins alors qu'il n'est pas pharmacien.
Il fait hyper mal à un mec d'ailleurs.
Oui.
Et le pharmacien, c'est le numéro 4 de l'équipe de choc de House of Lies. House of Lies, une série que je détestais au début et que j'ai appris à adorer. Et chaque année quand ça revient, je suis complètement obsédée, notamment parce que je trouve que toute la relation entre Don Cheadle et Kristen Bell est totalement fascinante. Il y a Don Cheadle, Kristen Bell, le mec qui est dans Parks and Rec et dans un milliard de séries, la grande brinque qui fait Giancarlo Parks and Rec, qui a joué dans plein d'autres trucs et tout.
Là, qui fait BB-8.
Oui.
Voilà.
BB-8. Ah, encore une raison de parler Star Wars. Deux mentions de Star Wars.
Bientôt. Stop.
Et le numéro 4, c'est le pharmacien.
D'accord.
Dans le pod de Don Cheadle, le quatrième membre de l'équipe, c'est le
pharmacien.
D'accord.
Bah, il est très très drôle dans cet épisode.
Il est assez drôle en vrai, en général. Ouais.
Ça donne des situations assez incroyables avec Jonah, donc il se retrouve à administrer les vaccins. Et il y a une scène géniale où tu vois qu'il y a quand même la thématique qui est respectée pendant tout l'épisode, c'est la thématique du racisme, où, pour être gentil, il fait passer une petite vieille devant. Parce qu'elle est pas là. Et derrière, il y a un black qui dit mais pourquoi elle passe devant et elle se retourne. Donc Jonah, pensant avoir fait une bonne action envers une vieille dame, elle se retourne parce que les blancs, nous, on serre les coudes. Dommage.
Et au même moment, Amy, énervée qu'une fois que la mexicaine, je sais plus ce qu'elle lui a fait, mais elle est tombée, enfin en tout cas elle se retrouve à l'hôpital. Et du coup, c'est Matteo le Philippin qui reprend sa place et il fait aussi un accent et elle a honte et elle commence à dire ça te plairait toi si je prenais un accent asiatique et elle commence à faire un truc hyper forcé avec un accent asiatique.
C'est du Michel Leb. C'est
Michel Leb. En plus, la personne qui passe, c'est même pas quelqu'un asiatique, c'est une blanche.
Non. C'est juste, elle est juste choquée, enfin à juste titre, hein. C'est quand même extrêmement choquant.
C'est clair. Et donc elle la regarde, et du coup, scène d'après, dans la salle de pause, séminaire contre le racisme. Voilà les choses qu'on n'a pas le droit de dire en public.
Avec une sorte de mascotte complètement stupide, et t'as donc le gars en chaise roulante, faut vraiment qu'on cherche son nom, qui est en train de chercher sur son téléphone.
Oui, c'est ça, ils ont une vidéo de
sensibilisation.
Oui, c'est ça.
Et il dit, et celui qui joue le rôle de la mascotte de Clone 9, c'est Donner la mort.
Est-ce que j'adore,
c'est bourré de trucs. Enfin, franchement.
Ce que j'adore aussi, c'est qu'il y a ce truc de cet autre personnage que tu vois de temps en temps qui a clairement des gros soucis, cette nana qui dit bah moi j'en ai marre parce que machin, dès qu'on est tout seul dans un couloir, il me fait, je sais plus si dans un couloir, il fait des commentaires inappropriés, je me sens menacée ou je sais pas quoi. Et là, t'as l'assistant manager, donc dont j'ai oublié le nom bien sûr, qui dit ah non non mais ça c'est du harcèlement sexuel, ça a rien à voir, c'est une autre vidéo, c'est une autre cassette vidéo.
Genre c'est pas le moment, on n'a pas le moment pour tes problèmes.
Que le truc a l'air vraiment horrible, et c'est, enfin d'ailleurs c'est pas drôle, mais enfin c'est tellement, et en même temps c'est bien vu, tout ça est absurde mais pas si absurde que ça.
Non.
T'imagines assez bien que, et la suite, on en parlera en détail, mais la suite à ce genre de truc. Je sais plus ce qu'il y avait dans l'épisode 2, je sais plus si l'épisode 2 était vraiment si intéressant que ça, pourquoi on en parle pas.
C'était
plus
un peu moins, même s'il y avait Lisa Coupe dedans.
Ah oui.
Où justement il y a quelqu'un de la maison mère qui veut faire un article dans le magazine de
Cloud9.
Et bon, c'est un peu monté en mais il est pas si réussi.
Non,
ça,
ce qui est génial, c'est que t'as le mec en chaise roulante qui est black, qui passe son temps à fuir le photographe qui essaye de le pourchasser dans les rayons.
C'est ça.
Pour pouvoir, ça parce qu'il est sûr scène. Qu'il va être sur la couverture, parce que pour montrer ouais regardez, on a vachement de diversité dans les magasins. Et du coup, le moment où il aide un client, et pendant qu'il aide un client, il fait deux doigts d'honneur avec chaque main, et le client regarde, il fait non mais c'est juste pour pas qu'il puisse prendre de photos. Et à la fin, que le patron a pas eu son moment de célébrité, il dit allez tiens, on va faire une photo, et il se met à côté de lui et il sait que le photographe va prendre la photo pour la couverture parce qu'il est en chaise roulante dessus quoi. C'est fort ce petit.
Non, il y a des petits moments très humains, c'est très drôle. J'apprécie très peu les critiques qui disent que ça ne révolutionne rien. Bah non, ça ne révolutionne rien. Et alors concrètement, de séries chaque année révolutionnent quelque chose.
Combien de trucs qui révolutionnent sont sûrs à mourir à regarder.
Bah voilà, c'est vraiment très réussi. On n'a pas encore parlé de l'épisode 4, Men and Queen, qui est pour le coup très très drôle. Et c'est la practical joke qui monte en escalade. Et franchement, pour le payoff que ça donne, ça valait vraiment le coup d'y arriver.
Alors, practical joke, ça veut dire. Comment on dit ça en français?
Bah,
a prank. Comment on dit ça en français?
Ouais,
Il y a un mot.
Il y a un mot,
pour ça. C'est la blague.
Aidez-nous.
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 Quand on aura mis le truc
en ligne. On a consommé trop de fiction américaine, on ne sait plus parler français.
Donc, prank, je vais regarder sur mon téléphone. Le payoff, c'est la. La récompense de la blague. Ouais. C'est le fameux truc qui marche pas, setup, payoff, mais qui est l'installation et la récompense. Je sais pas s'il y a une terminologie française pour dire ça, mais je me demande, franchement, un jour je me dis que j'aimerais bien collaborer, qui veut collaborer avec moi, à un bouquin sur la science de l'humour, hein, et toutes ces blagues, toutes ces techniques de blagues. Donc que ce soit la philosophie du setup et du payoff, que ce soit, par exemple, j'adore l'idée de la blague arson, murder, jaywalking.
Ouais.
Qui est une forme de règle de trois détournée, où tu cites trois trucs et le troisième truc est complètement inapproprié par rapport aux deux autres, et notamment les deux premiers sont hyper graves et le troisième est complètement obsolète. Et donc arson, ce qui veut dire l'incendie criminel, murder, le meurtre, et jaywalking, c'est traverser la rue en dehors des clous. Il faudrait écrire un bouquin là-dessus, parce que ça n'existe pas, non? Si ça existe, écrivez-nous pour nous dire ce que c'est le bouquin. Comme ça, je pourrais pleurer que j'ai même mon idée de.
mais c'est assez drôle. C'est un épisode qui est très drôle aussi parce qu'il met en relation donc, les deux personnages principaux, Jonah et Amy, sur leur côté un petit peu flirt de boulot.
Oui, clairement. Parce que clairement. Mais ça, c'est un truc que j'adore. Je trouve dès le premier épisode, il est très clair sur le fait qu'elle lui plaît.
Oui.
Et ça, on en reparlera tout à l'heure avec Lucifer. C'est vraiment un truc que j'apprécie de plus en plus dans les séries. C'est. Le Will They Won't They, il est souvent là.
Mm.
Et je peux pas croire qu'une personne adulte ne se rend pas compte quand quelqu'un d'autre lui plaît. C'est pas vrai. On peut faire semblant, mais on le sait. Et quelque part, en même temps, je suis en train de penser dans Castle, c'était un des trucs qui était rigolo, c'est qu'elle avait l'air de pas l'apprécier, de faire genre, qu'il la faisait chier au début. Et en même temps, le spectateur savait qu'elle était fan de lui parce qu'elle lisait ses livres tout le temps. Donc c'est une façon pour dire au spectateur, non, non, mais elle fait semblant, elle sait, elle n'est pas dupe. Parce que ce truc de « Ah non, je l'aime pas, ah, je l'aime pas, ah, en fait, je suis amoureuse », quand t'as dépassé 25 ans, c'est pas vrai. Tu te connais, tu vois, ce que je veux dire. Ça t'arrive plus, ce genre de conneries.
Non, mais je trouve qu'il traite bien de ça, et tout le délire sur le mannequin, sur Jonah qui essaye de prendre ça bien, parce qu'on lui a fait remarquer qu'il savait pas prendre les...
Le truc derrière qui est génial, c'est que ça dit, en fait, que les mannequins du magasin ressemblent à Jonah. Et effectivement, oui. Jonah est le seul... blanc, mec blanc, basique, pas vieux. Et du coup, la blague, c'est tu es lambda. Mm. Ce qui est terrible pour Jonah, parce qu'en plus, tu sens que vu son background, probablement, il y a un côté lui sans spécial. Tu sais, c'est cette blague de la norme qui comprend pas qu'il est la norme parce qu'il a l'impression d'être original. Et en fait, et du coup, il essaye de. Donc, à la fois, il essaye de montrer qu'il a beaucoup d'humour et que ça le fait rire, que tout le monde se moque de lui en disant que le mannequin lui ressemble. Et ensuite que Amy passe son temps à du coup mettre le mannequin dans des situations et dans des notamment il y a un truc à un moment où tu la vois gonfler une tête de requin en bouée.
Ah mais globalement elle a rien fait de sa journée à part ça quoi. C'est ça qui est hallucinant, tu te dis.
C'est la blague, c'est le truc, tout le reste est en galère parce que c'est quelqu'un d'autre qui s'est occupé du timing et du planning et du coup.
C'est Mathéo.
Ah, c'est Mathéo, ouais. Il a foutu tout le monde au congélateur.
Parce que tout le monde le déteste, soi-disant. Enfin, c'est lui qui, genre, t'as fait un truc qui me convenait pas, donc je te mets au congélateur, ainsi de suite.
Et tu vois, à un moment, un plan du congélateur où t'as 20 personnes qui arrivent pas à travailler parce qu'il y a trop de monde.
Et c'est très bon quand il y a le personnage, donc, après avoir vérifié le nom, donc, notre ami en chaise roulante s'appelle Gareth. Et donc c'est le mec un petit peu le plus jean-foutiste de la boîte, donc globalement c'est pas lui qui va te dire bah tu bosses pas, mais sauf que là il trouve que ça va tellement loin, il dit mais genre t'as pas autre chose à faire qu'à t'occuper de ça,
à Amy qui passe son temps à faire ça,
mais c'est plus pour lui faire remarquer qu'il y a peut-être un truc quoi, tu t'obsessionnes un petit peu, non j'obsessionne pas,
non mais surtout c'est génial parce qu'il lui dit non parce que bon un peu vous flirtez, c'est normal, comment ça on flirte, non mais bon après c'est pas grave, mais bon là c'est un peu en train d'empiéter sur le reste, et genre mais pas du tout, mais il n'y a pas de femme, mais je vois pas de quoi tu parles, mais comment
genre et après, il faut savoir quand même que ça part tellement haut dans les tours, ça s'enchaîne avec l'arrivée d'une poupée gonflable, parce qu'il cherche un mannequin qui ressemble à Amy, sauf qu'il a personne, il a pas de
d'abord, il essaie, il y trouve une blonde.
Une blonde, mais ça fonctionne pas. Résultat, le seul truc qu'il trouve, c'est une poupée gonflable réaliste, donc brune.
Non, c'est pas une poupée gonflable. Quand tu dis poupée gonflable,
si.
Non, mais oui.
C'est une sex doll, quoi.
Oui, c'est ça. Non, parce que quand tu dis poupée gonflable, il y a d'autres. Il va dans un sex shop pour trouver.
Une sex doll, je sais pas combien de milliers de dollars.
Qui soit. Pour rendre le truc, il doit payer 200$ de forfait.
Parce que jamais personne ne les rend.
Ouais, pour qu'il y ait un truc qui ressemble à Amy, et il y a ce moment génial où c'est flouté parce que tu sens que c'est hyper gênant. Et en fait, on dirait que les gens voient quelqu'un nu. C'est très très drôle. Et avant ça, il y a Jonah, c'est ma scène préférée, qui est Jonah qui essaie de se débarrasser du mannequin qui lui ressemble et qui le met dans la compacteuse et qui commence à. Qu'il n'arrive pas à l'enfoncer jusqu'au bout, il y a un pied qui dépasse. Et ça fait un bruit pas possible parce que le truc est cassé et t'as le patron qui débarque. Et qui se tape à une espèce de crise hystérique, c'est qu'est-ce que t'as fait? C'est qui? Monstre, comment? Parce qu'il est persuadé que c'est quelqu'un qui est vraiment dans la compacteuse et que le tech Jonah a tué quelqu'un.
Pour le cas, vous auriez remarqué, on aime bien Superstore.
Non, mais je voulais qu'on s'amuse pour une fois, vraiment rentrer dans le détail.
Mais
quoi.
Non, mais vraiment, c'est une bonne surprise. De ce que j'entendais comme retour critique.
Mais on est d'accord, c'est moi qui délire ou tout le monde.
Ah non, c'est.
Mais pas que ici, enfin, c'est pas un truc de France ou d'États-Unis, c'est partout, quoi. C'est vraiment.
Voilà, les gens ont tourné la tête. Mais après, si tu vas par là, enfin, il y a une comédie que j'aime beaucoup qui s'appelle Bob's Burgers.
Que j'ai jamais réussi à regarder.
Si je m'étais fié uniquement sur les premières critiques, j'aurais jamais regardé en fait. Il a fallu que quelques épisodes plus loin, il y ait certains critiques qui pointent les qualités de la série pour que je pose l'œil dessus. En effet, au début, c'était un peu chaotique, c'était pas très réussi.
Mais enfin, comme tout début, toute série, enfin, je veux dire.
Comme énormément de séries comiques. Là, je trouve qu'au contraire, ils ont l'air de trouver leur rythme assez facilement, quoi. Enfin, il y a déjà.
Oui, l'ensemble fonctionne bien ensemble.
Tu sais où ça va. Bon, après, est-ce qu'il y a aussi le savoir-faire The Office sur les workplace comédies, et donc il y a des archétypes sur lesquels il a pu se reposer, ce qui fait que
non,
ça fonctionne
quoi,
bien.
Non, même pas les mêmes.
Mais Non, c'est sûr, oui, il y a des grosses différences. Oui, c'est pas Michael Scott, le patron, c'est pas. Même s'il y a un petit côté de Jim et Pam, c'est pas Jim et Pam du tout.
Non, il y a un côté de Jim et Pam, en fait, j'ai réalisé parce qu'ils sont tous les deux incompétents. Mm. Par rapport, enfin, ils sont pas compétents, ils sont woke. Tu sais que c'est le mot, c'est le mot qu'ils utilisent aux États-Unis en ce moment pour dire quand quelqu'un est être woke, et c'est rigolo parce que c'est juste au moment où il y a Star Wars Force Awakens, mais c'est être woke, c'est être avoir conscience des tenants et des aboutissants politico-sociaux. Donc par exemple, un blanc woke, c'est un blanc qui comprend ce que c'est que le privilège des blancs, par exemple. Et ils sont comme ça, c'est-à-dire qu'ils voient l'absurdité ambiante. Même quand ils sont pris dans leur propre délire, ils ont un petit truc de recul. Sinon, on a déjà vu dans le 4 qu'elle a un enfant ?
Non, c'est plus tard.
En fait, non, mais si, il le dit, parce que ça, il y a le truc, c'est ça ?
Elle le dit, elle en parle très vite.
C'est ça, à un moment, elle dit oui, machin, oui, avoir un enfant, je sais pas quoi, et elle dit oui, d'ailleurs, moi, quand j'ai eu ma fille. Et là, Jonah.
T'es mère célibataire ?
Non, il dit pas comme ça. Il dit ah, je trouve ça génial.
Oui.
Je trouve ça vachement. J'ai beaucoup de respect pour les mères célibataires qui s'en sortent tout seules. Et elle fait non, mais c'est bon, je suis mariée.
Et la Gareth.
C'est dans le 4, je crois. Et ce que j'aime bien, c'est. Tu sens que Jonah est là. Ah ouais, d'accord. Il avait juste pas du tout capté que.
Ouais. Mais on en parlera d'ailleurs très bientôt de l'épisode où sa fille arrive, parce qu'il y a des trucs vraiment très très bons dedans aussi.
Notamment le shout-out de Maze Runner qui m'a fait beaucoup beaucoup rire. Avec ce grand truc, spoiler pour la prochaine fois, d'une mère qui fait lire un bouquin à sa fille et qui dit « T'en es où ?»« Mais avance, j'ai envie d'en parler !» Ce qui en dit long sur la relation qu'elle entretient avec sa fille. Donc voilà, Superstore, regardez, suivez-le avec nous. Mais ouais, je pense qu'il y a un truc... Ils sont juste... c'est très bien écrit, c'est drôle, mais surtout, c'est des vrais personnages. Ils ont tous trois dimensions. Et en plus, ils n'ont pas peur de parler de trucs dérangeants.
Oui, c'est ça. Ouais, voilà, je reviens à ni angélisme, ni poil à gratter. C'est drôle et c'est assez fin, je trouve. C'est assez fin, la façon dont c'est traité.
Donc voilà, Superstore. Ah oui, et la bonne nouvelle, c'est que ça a été renouvelé pour une deuxième saison. C'est-à-dire que la première saison est terminée, mais nous aurons la suite après.
Bah écoute, pour une fois qu'il y a une bonne comédie sur NBC, c'est bien qu'il y ait.
Attends, moi j'avais bien aimé.
Ah, mais il y en a eu des bonnes.
Le truc avec Amanda Pitt et l'autre qui a été annulé au bout de 6 épisodes.
Pas vu.
Où lui, il répare sa maison.
Pas vu.
Bent. Qui était un truc que, en plus, en même temps, je connais plein de blogueurs américains qui avaient adoré, qui étaient dégoûtés parce qu'en gros, ils ont attendu avril pour la montrer, ils ont fait 6 épisodes et c'était déjà. Enfin, couru d'avance qu'ils n'allaient pas la renouveler. Là, c'est vrai qu'ils ont donné sa chance à Superstore, qui le méritait plus que Telenovela. Beaucoup, beaucoup moins drôle. Bon, passons à une à toi aussi, mais une peut mieux faire. En tout cas, au départ, Marvel's Agent Carter, saison 2. Alors, je ne sais pas si on avait vraiment dit la dernière fois où on en était, donc moi, j'aurais juste faire un petit point sur mon rapport avec Agent Carter, qui est que je suis à fond pour cette série. J'ai bien aimé la saison 1, mais elle m'a jamais bourriffé. Et la saison 2, je n'ai vu que les 3 premiers épisodes. On va parler des 4 premiers, mais je n'ai vu que les 3 premiers épisodes. Et j'ai bien aimé les 2 premiers, mais je ne me suis pas rappelé de grand-chose. Par contre, le 3 m'a tout de suite beaucoup plus plu. Et je trouve ces acteurs excellents. Ça m'aide beaucoup, beaucoup. Les acteurs sont excellents. Je trouve Tony Stark. Oui, il s'appelle aussi Tony le père. Non, Howard.
Howard Stark.
Je trouve absolument génial cet acteur.
Il est vraiment très bon.
Et il est extrêmement drôle. Et sa façon de vivre est très, très drôle. Il y a une scène dans le 3, notamment, où il va dans un club réservé aux hommes et il débarque avec 50 nanas. Avec le côté, et après, quand ils sont jeunes, ils font ah ouais, mais de toute façon, je déteste ce club. Et il s'en va. Sans parler du fait qu'il a décidé qu'il faisait des films et qu'il y a tout un truc sur.
Oui.
Sur le.
Howard Hughes.
Oui, c'est ça. Il y a ça, et puis il y a le fait qu'elle lui dit, tu veux pas jouer dans mon film. Elle dit ouais, si j'ai le droit d'être le héros, non, mais le public est pas encore prêt. Ah bon, mais un film de super-héros, c'est pas ridicule, peut-être. Donc voilà, c'était quand même très plaisant ce genre de clin d'œil. Non, et puis il y a Hollywood, Los Angeles. Je trouve aussi le rapport, la relation complexe et complètement dans le non-dit qu'elle a avec Enver Gyokai.
Très intéressante. C'est très,
et très touchante.
Oui.
Et même si t'es là. Je sais qu'elle est gentille, l'infirmière Enver, mais c'était vraiment amoureux de Carter. Faudrait peut-être que tu fasses gaffe parce que c'est, Enfin voilà quoi, ne parie pas sur quelque chose de trop rassurant avant d'avoir essayé, parce qu'il y a vraiment le côté du non-dit omniprésent dans leur relation.
Mais complètement, oui. Et puis je pense que la relation de Gokage et de la... l'infirmière est un peu trop stéréotypée pour être réelle sur la durée, quoi, parce que il a du mal à marcher, donc c'est une infirmière, enfin c'est tellement appuyé, ça peut pas fonctionner sur la durée, ou alors ouais, ça manque clairement de finesse là pour le coup. Mais je pense pas que ça soit fait pour durer. Mais bon.
Bah, le problème, c'est que c'est un cliché de... J'ai envie de dire c'est un cliché de fiction, en même temps, c'est un cliché que j'ai vu plein de fois dans la vie,
Oui.
Non, mais c'est ça, de... Ah ouais, elle est passionnante et elle est dangereuse et elle est excitante, mais je vais prendre la gentille mignonne à côté parce que c'est plus sûr. Je n'irais pas jusqu'à dire que ça m'est déjà arrivé dans ma vie, mais un peu quand même. Donc, malheureusement, c'est un cliché réaliste pour le plus grand malheur de nous toutes, femmes un peu...
Je vais faire juste une toute petite parenthèse pour faire une sorte d'appel aux yeux bien ouverts de nos auditeurs et spectateurs de Agent Carter. On est d'accord que toutes les scènes d'extérieur, quand il y a ce qu'on appelle des establishment shots, c'est-à-dire par exemple, on veut te montrer que tu es à Los Angeles près d'Hollywood, on va te montrer l'extérieur et puis après tu vas aller dans ta scène. Toutes ces scènes-là, pour moi, c'est du stock shot, des vieilles bandes des années 50-60 qui ont été recyclées, retravaillées, colorisées et qui sont utilisées en tant que telles, en tant qu'establishment shot, ce qui coûte évidemment beaucoup moins cher que de faire venir 50 figurants pour juste faire un plan large à la con pour dire maintenant on est là, donc on va aller. Et pour moi, tous les extérieurs en establishment shot, qui ne sont pas non plus hyper nombreux, c'est ça. Vous regarderez, le grain est différent, la couleur est différente, ça choque un tout petit peu. Il faut avoir l'œil un petit peu aiguisé, mais ça m'est arrivé 2-3 fois et je me suis dit, mais est-ce que c'est le cas de tous les establishment shots d'Agent Carter? Donc regardez, dites-nous.
Moi, c'est quelque chose qui me ferait plaisir. Si tu... Enfin, moi, je trouverais ça cool qu'ils fassent ça.
Non, puis c'est intelligent. Puis ça permet de faire des économies, en même temps de coloriser encore plus la série, de l'ancrer encore plus dans sa période. Donc je trouve ça assez à la fois malin dans tous les sens du terme, en fait.
Ça me fait penser à un de mes épisodes préférés de Xena. Désolée, c'est le podcast des parenthèses. C'est le podcast où je parle de toutes les séries que, à part les fans, personne ne regarde ou dont personne ne parle. Dans la première saison de Xena, donc Gab, parce que tu ne sais peut-être pas, je ne sais pas si combien d'épisodes de Xena tu as vu, Gabrielle, la compagne de Xena, a plus d'un, enfin, dans plus d'un sens, enfin, c'est pas très clair, mais c'est un peu clair quand même. Elle rêve d'être barde.
D'accord.
Donc dans la première saison, il y a un épisode où elle décide d'aller à l'école des bardes parce qu'elle croise des voyageurs qui sont sur le chemin pour aller un peu comme l'école des beaux-arts, quoi, pour aller, je sais plus dans quelle ville à ce moment-là, si c'est en Grèce ou si elles sont ailleurs. En tout cas, aller dans une école de bardes et sur le chemin pendant tout l'épisode, elle et les autres bardes se racontent des histoires. Donc elle, quand elle commence à raconter des histoires, tu vois des extraits de Hercule et de Xena.
D'accord.
Je crois que c'est l'épisode 13. Ouais, 12 ou 13. Je pense que 12, c'est celui sur Hélène de Troie. Bon, passons de la saison 1, donc c'est au début. Donc tu as encore des surtout l'histoire de base de Xena s'est passée dans Hercule, donc voilà. Donc tu vois des extraits de la série. Quand elle raconte, elle dit oui, à ce moment-là, elle a fait ça, et tu vois des images. Et par contre, quand les autres bardes racontent, tu vois des images de péplum.
D'accord.
Mais de qualités différentes. Genre, il y en a un, il est nul. Si tu vois le vieux péplum, tu vois rien et tout. Et il y en a un, c'est Homer.
D'accord.
Et lui, quand il raconte, c'est Spartacus. Ils sont des images de Spartacus. Et je ne parle pas de la série Spartacus, je parle du film Spartacus,
oui,
réalisé par Stanley Kubrick. Et ça, je trouve ça.
Ouais.
Et en fait, ça fait penser à ça. Et j'aime raconter des histoires parce que j'ai toujours dit, si un jour j'ouvrais une université sur la science des séries, il y aurait un semestre obligatoire pour tout le monde sur Xena. Où, parce que même si vous ne regardez pas Xena et si vous n'avez pas envie de regarder Xena, il y a plein de choses à savoir sur Xena. Et, parce que c'est une série très, très importante pour plein de raisons, qui a créé plein de choses. Et cet épisode-là, j'aime bien en parler parce que c'est vraiment, je trouve que c'est d'une liberté d'esprit et de ton d'avoir osé faire ça. Et je pense qu'ils ont, enfin, comme beaucoup de choses dans Xena, ils ont osé le faire parce qu'ils étaient syndiqués, donc ils n'avaient pas de network. Ils étaient vendus aux petites chaînes locales. Mm. Donc voilà, c'était la parenthèse. Donc moi, si tu as raison sur les establishing shots de John Carter, je trouve ça intelligent et je trouve ça bienvenu et très méta.
Complètement, oui. C'est, non, mais enfin, moi, ça m'avait surpris la première fois que j'ai vu ça. Après, j'ai pas vraiment hyper fait attention. J'aurais peut-être bu, genre. Mais j'étais pas mal, joli.
Faudrait se renseigner s'il y a des gens qui ont parlé de ça sur Internet.
Moi, c'est pareil, les deux premiers, j'étais vraiment pas dedans. Et vraiment, le premier, c'est celui qui m'a fait me dire non, mais je vais prendre ça comme série pour dire pas forcément du mal, mais juste que j'aimerais tellement que ça soit mieux que ça, quoi. Et c'était peut-être aussi le temps que la série s'adapte au Los Angeles, redéfinisse quelque part un petit peu sa mythologie. Parce que ça, enfin voilà. Moi,
que l'histoire commence aussi. Parce
voilà,
que...
moi, franchement, à New York, j'étais pas transcendé du tout, quoi. Il y avait deux, trois trucs que j'avais trouvé intéressants. Et évidemment, le truc le plus intéressant, heureusement, ils le gardent, c'est le duo Peggy Carter et Jarvis, qui est juste le truc. Enfin, c'est ce qui me faisait me dire, mais en fait, je devrais adorer cette série, parce qu'il y a eux deux, parce que même pris individuellement, ce sont des personnages qui m'intéressent, qui me fascinent, qui me font
super,
rire.
Les acteurs sont super.
Géniaux. Je devrais adorer ça. Et il y a des scénaristes que je connais dans cette série-là qui sont vraiment très bons. José Molina en fait partie. Je me dis, mais mince, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Et bah faut laisser le temps un petit peu. Moi, je suis allé jusqu'au quatrième épisode. Le troisième, en effet, est un petit... significativement en avant, le quatrième est juste excellent.
Ah merde, du coup ça marche plus pour notre... Mais c'est pas grave, on va continuer à dire du bien d'autres séries, c'est très bien.
C'est pas grave. Le quatrième est vraiment bon parce que en fait, ils sont sur un mode de double narration de flashback où ils te montrent... Alors, t'as évidemment ce qui se déroule dans le présent qui fait avancer l'intrigue, mais ils te montrent les origines de Peggy Carter et les origines de l'antagoniste de la saison, qui est donc, je me souviens plus de son nom, mais c'est l'actrice qui est la femme du mec
devenue actrice, qui est pour moi, faudrait que je retrouve son nom, mais le contraire de l'actrice devenue scientifique, la femme qui a inventé le Wi-Fi.
Oui.
Lamar, quelque chose.
Et voilà. Et surtout, ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, en montrant les deux destins en mode flashback, ça montre deux façons complètement différente de traiter la place de la femme dans la société de l'époque. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en gros, il te raconte...
J'adore,
que...
dans la société de l'époque.
Ouais. Ça a un peu évolué, quand même.
Un peu, je suis d'accord.
Un peu. Peggy Puis, Carter...
Maintenant c'est moins franc. Ouais. Maintenant, tout est plus insidieux.
Les deux avaient des capacités remarquables. Peggy Carter, on les voit, on les connaît. Donc l'antagoniste, dont je ne me souviens plus le nom,
on se souvient d'aucun nom.
On se souvient d'aucun nom.
On regarde des séries, d'autres séries. Et on se souvient pas des noms. En fait, c'était Dina, la nana tout à l'heure de Superstore dont on parlait.
D'accord.
Okay. Manager, elle s'appelle Dina, juste pour dire.
Et donc cette scientifique qui est devenue actrice, elle, c'est voilà, sa capacité, c'est un génie en fait. C'est juste un génie. Pas de chance, c'est à l'époque, c'était une femme. Et donc. D'un côté, il y a Peggy Carter qui s'est redirigée vers un chemin traditionnel. Elle allait se marier, elle avait la possibilité de rentrer comme codeuse et même aller sur le terrain pendant la guerre. Elle allait dire non parce qu'elle allait se marier. Et pendant ce temps-là, on montre le cheminement de l'autre, qui est donc petite fille génie qui répare les trucs à la maison, qui est élevée par une mère qui fait un peu... comment dire, qui est entretenu par une sorte de pas de macro, mais de en gros, voilà, elle a une relation avec un mec qui doit être marié, qui vient de temps en temps, qui laisse le bifton sur la table et qui se barre.
Ah.
Absolument horrible. Et qui n'arrête pas de lui dire à elle, petite fille, souris, tu dois être jolie quand tu souris, souris. Alors qu'elle, elle est juste en train de réparer un truc ou de réfléchir à quelque chose. Et donc, tu as la vision de l'homme machiste au dernier degré qui dit souris. De toute façon, t'es une fille. Enfin, ouais. T'es là pour sourire, t'es pas là pour être intelligente. Et donc, sa progression, c'est ça. C'est qu'en fait, elle va être obligée de tourner le dos à tout ça. Et un jour, elle va tomber sur quelqu'un qui va lui donner la possibilité d'être comédienne à la sortie d'un cinéma ou un truc comme ça, parce qu'elle est en totale dépression, elle va revoir constamment le même film. À chaque fois qu'il y a un nouveau film dans la salle, elle va voir le film tout le temps. L'ouvreuse lui propose même un billet en lui disant « Tiens, c'est jolie touche d'ailleurs, parce que celle qui lui donne un billet, c'est une femme noire. Donc c'est vraiment elle qui lui fait un geste vers elle, alors qu'elle est face à une femme blanche d'une extrême beauté, où tu te dis pour l'époque, elle ne devrait pas avoir de problème. » Et là, elle tombe sur un découvreur de talent qui lui demande de sourire, et elle sourit, et quelque part, elle embrasse la destinée qu'on lui a imposée depuis qu'elle est gamine, quoi. Le truc absolument abject. Alors que Peggy Carter, il y a tout qui est parti dans l'autre sens. Et donc, du coup, de montrer ces deux chemins-là et de te dire que finalement, ces deux visions du sexisme, il y en a une qui s'en est affranchie, qui a réussi à s'en affranchir parce qu'elle était entourée par les bonnes personnes, l'autre qui n'a pas du tout réussi parce qu'au contraire, elle était entourée par les mauvaises, qui se retrouvent aujourd'hui face à face. Je trouve que l'épisode est juste formidable, vraiment. Et du coup, toutes les réticences que j'avais sur cette saison-là, sur le quatrième épisode, se sont envolées. Il y a toujours des trucs que je trouve qui sont pas vraiment très très bien faits. Mais malgré tout, j'ai enfin eu mon épisode où je me suis dit « Ouais, c'est à ça que ça doit ressembler ».
Ça explore les thématiques sociopolitiques qui nous intéressent depuis le début.
Tout en restant fun. Et ça reste de l'histoire de comic book. Donc c'est bien. C'est exactement ce que je voulais depuis le départ. Un truc qui parle de ces problématiques-là, sans forcément que ça soit toujours du clin d'œil. Parce que je trouvais que c'était un peu toujours du clin d'œil.
Oui, c'est ça. Le clin d'œil, c'est bien, c'est superficiel.
C'est ça, comme dans l'épisode 3, une réplique qui m'avait fait mourir de rire, où... À un moment, elle essaye de fouiller dans un endroit, elle ressort, il y a quelqu'un qui dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Elle dit « Ah, je ne sais pas trop où j'étais, je deviens confuse quand je suis entourée de bouquins. »
Oui, oui, c'est ça, « I get confused around books », oui, je m'en rappelle. Je m'en rappelle, je l'ai tweeté quand je l'ai vu.
Bah voilà, c'est super drôle, mais ça reste un clin d'œil.
Non, mais c'est ça, en fait, alors moi, mon problème, c'est que... En fait, moi, ce que je voudrais que Agent Carter fasse, c'est ce que je voudrais que Agents of S.H.I.E.L.D. fasse, c'est ce que je voudrais que... tous les films Marvel et DC fassent, c'est qu'ils comprennent ce que fait Joss Whedon, parce que je sais que... Enfin voilà, le truc, c'est que... je pense que peu de gens comprennent la profondeur de Avengers et de Avengers Age of Ultron, et à quel point ça... Il y a un écho politique et surtout de Age of Ultron, et un écho émotionnel et psychologique très fort de Avengers, avec tout un tas de choses très complexes qui sont rarement explorées par la fiction. Et j'essaye depuis que j'ai 17 ans de comprendre qu'est-ce qu'il fait, pourquoi est-ce que lui il arrive à faire ce truc en plus. Je pense qu'il y a une honnêteté sur l'ambiguïté de la condition humaine. Je pense que dans la plupart de la fiction, on est sûr, ils te disent qui et pourquoi ils sont comme ça. Et il y a un seul choix. On sait tout de suite où est le bon choix et le mauvais choix. Dans Whedon, on ne sait pas. Et du coup, vu qu'on ne sait pas, pour pouvoir raconter une histoire qui a du sens, il faut tout le temps explorer la condition humaine. Et en fait, ce que je voudrais que Carter fasse... Effectivement, j'apprécie qu'il pose la question politique, le fait qu'il y ait un personnage important noir qui devienne invisible à un moment, qui s'efface... qu'il y ait ce moment au début. En fait, ça m'avait frappé quand il arrive la première fois qu'il arrive, parce qu'il l'invite à dîner et j'étais là. C'est très étrange qu'un homme noir en 47 à Los Angeles se sente d'inviter une nana qu'il connaît pas à dîner. Après, elle est anglaise. C'est pas innocent. Et en fait, le fait qu'après, il l'invite à boire un verre dans un bar noir et en disant ce sera plus simple ici, on va moins se faire remarquer. J'étais là, d'accord. Parce qu'au début, j'ai juste eu l'impression qu'il faisait comme si ça n'existait.
Une sorte de négation de...
Voilà, c'est ça. Et en pensant, non, malheureusement, c'était problématique. Mais surtout, il y a une pression sociale énorme, quoi. Et en fait, mais en fait, le problème, c'est que ça résonne. Enfin, ça résonne pas encore. Je veux dire, Peggy, elle est un peu triste parce que, elle est triste parce qu'elle a perdu Cap. que j'ai vu Avengers 200 000 fois, Capitaine America, Steve, de son petit nom, et elle est un peu triste parce qu'elle aimait bien, c'est pas très clair comment elle l'aime bien ou pas, Enver Yo-Kai,
ouais.
Dont j'oublie le nom. Et en même temps, elle fait le truc de base de la nana indépendante, qui je pense est une connerie et qu'on a toutes tendance à faire, de faire genre « Ah non, mais c'est pas grave, je suis vachement fan de ta nouvelle copine », plutôt que de dire ce qu'elle pense. Mais bon, passons. Mais tu vois, je la sens pas perdue, je la sens pas en questionnement d'elle-même et de où elle va et de ce qu'elle fait, de pourquoi elle est là, alors que En fait, c'est rigolo parce que Whedon, il a fait un discours pour la remise de diplôme de Wesleyan il y a quelques années. Et en fait, tout son discours, c'est de dire oui, vous allez choisir un chemin plutôt qu'un autre, mais ne pensez pas que l'autre chemin va disparaître. En fait, non seulement vous allez tout le temps y penser à cet autre chemin, mais vous allez aussi finalement le vivre en parallèle. Parce que toute votre vie, vous allez tout le temps être dans ce questionnement de c'est quoi l'autre option. Et en fait, c'est pas grave. Parce que ça vous permet, en gros, d'apprendre plus sur vous. Et en fait, c'est rigolo parce que c'est. Moi, je me rappelle à l'époque où Alias est devenu populaire et qu'on me disait ah, c'est vachement bien, genre, c'est mieux que Buffy, genre. Et moi, du coup.
Oh, ça a dû t'énerver, ça.
Et du coup, des années. Je sais comme les gens récemment qui me disaient Buffy, ah ouais, c'est comme Charmed. Yael meurt. Non, et en fait, il y avait toujours cette question de. Moi, du coup, à un moment, j'ai acheté les deux premières saisons d'Alias en DVD. Un jour où j'avais une grosse grippe. Et j'ai tout regardé d'un bloc parce que je voulais les voir en vrai et arrêter de ne pas savoir de quoi je parlais. Et en fait, dans Alias, tu te poses jamais la question de ce qu'elle doit faire. Tu te dis est-ce qu'elle aura le courage de le faire, mais tu te poses jamais la question. Tu sais, dans Buffy, tu sais jamais ce qu'elle doit faire. C'est. Dès l'épisode 5, c'est. Tout est une question de choix et on ne sait pas. Et ce n'est pas grave parce que c'est ça la vie. Et du coup, parce qu'on ne sait pas, on se pose la question et on grandit et on avance. Et Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, tous ces trucs-là, c'est que des trucs où, à la limite, dans les DC, je les sens beaucoup plus. Dans Arrow.
D'accord.
Vachement plus dans Arrow, un peu dans Flash.
Mais ok, je vois. Ouais.
Je sens la dimension psychologique de. Putain, j'essaye d'assumer ce que je dis et ce que je fais, et en même temps, je suis pas sûre d'où je vais, je sais pas pourquoi. Et du coup, tout ce qui leur arrive prend du sens, effort et tout. Et là, il y a pas cette profondeur psychologique.
C'est ce qui donne ce côté un petit peu, enfin cette apparence de qui est pas énormément de conflits en fait dans Agents of S.H.I.E.L.D. ou Agent Carter, que ça suit un petit peu un chemin quelque part. Oui, bah c'était logique qu'elle aille là, c'était logique
qu'il
fasse ça.
Mais surtout, ce qui leur arrive n'a pas de résonance. Il y a pas d'écho métaphorique en fait, du coup.
Bah là, j'attends avec impatience ce qu'ils vont faire derrière, en répercussion à cet épisode 4. Comment ils vont monter Peggy Carter et l'antagoniste. Est-ce que ça va être très classique ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir quelque chose d'un petit peu plus, subtil. On verra.
Bah, parce que c'est vrai qu'il y a déjà ce problème de j'ai une couche. Et en fait, ce que je vois, c'est ce qu'il y a. Et il n'y a pas ce deuxième niveau de lecture, en fait. Oui, mais ça veut dire quoi ? Oui, mais si je dis ça, ça veut dire. Enfin, Agents of S.H.I.E.L.D. flirte avec depuis la saison 2. Hein.
Ouais. Oui.
La question des Inhumans, c'est vraiment pas inintéressante. La relation que Coulson avait avec Constance Zimmer n'était pas du tout inintéressante non plus.
C'est deuxième moitié de saison 2 ?
T'es pas à jour sur Agents of S.H.I.E.L.D.
Du tout.
D'accord.
J'avais plutôt bien aimé le retour en saison 2. J'avais pas du tout aimé la saison 1.
Mais qui a aimé la saison 1, quoi? Non, mais en fait, dans la saison 3. Là, c'est le début de la saison 3 d'Agents of S.H.I.E.L.D.
D'accord, ok. Bah, non.
Et Constance Zimmer est dedans.
Ah, cool.
Et moi, je me suis dit, tu sens que, que Whedon a regardé. Que les Whedon, en tout cas, sont fidèles à Martin Oxon et ont regardé Unreal et se sont dit, putain, elle est trop forte, Constance Zimmer. On la veut aussi.
Mais ouais. Enfin bon, quoi qu'il arrive, voilà, ça met un petit peu du temps à démarrer. Elle a toujours ses qualités de la première saison, donc c'est là que je me dis qu'en fait, c'est des les gens à la tête d'Agent Carter sont plutôt intelligents, c'est que ils ont fait table rase vraiment de ce qui ne fonctionnait pas. Ils sont pas mis à arrêter quelque chose qui marchait bien, quoi.
Ouais, non, c'est clair.
Et,
mais sauf que pour moi, ils ont pas encore saisi ce truc.
Non, pas encore.
Mais c'est simple, ça veut dire quoi? Et alors, il y a un des mecs de ABC qui s'est barré là, qui s'est barré un peu précipitamment à la fin de décembre ou début janvier.
Tu crois que c'était lui l'exécutif d'ABC?
La question, c'est est-ce que c'était lui ou est-ce que c'est la nana qui l'a remplacé?
Alors là.
Alors parce que il était connu pour être fan de feuilletonnant.
Ouais.
Mais elle, c'est elle qui a développé How to Get Away with Murder.
D'accord.
Donc la grande question, c'est lequel la théorie de la conspiration sur l'exécutif de ABC qui vient foutre la merde dans toutes ces séries. On va voir. Je pense qu'on va voir dans généralement, bon, en fait, ça met 2 ans à passer d'un cycle de développement à l'autre, mais vu que sur NBC ils sont hands-on et qu'ils lisent tout et qu'ils sont tout, je pense qu'on va, on va savoir à la rentrée. Moi, je donnerai mon opinion en tout cas vers novembre 2016 sur est-ce que c'était Lee ou est-ce que c'était Lee, qui pourtant a donné énormément de liberté au sitcom par contre. Mais d'ailleurs, Blackish, qui vient d'avoir un épisode totalement extraordinaire, Fresh of the Boat et tous ces trucs-là, par contre, eux ont le droit d'avoir une profondeur et un écho social, mais aussi, du coup, ouais, encore. Et encore, je pense qu'il y a cette dimension, tu vois ce que je veux dire, ce deuxième niveau de lecture, le sous-texte, l'histoire sous l'histoire, qui en fait n'existe pas. Et je sais pas si c'est la faute de qui, mais ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve. C'est agréable à regarder, mais du coup, là, je suis en train de revoir le début d'Angel. La première saison d'Angel qui est censée être débile, et ce qui a plein de défauts, et clairement, ils avaient zéro sous, et il y a des démons vraiment ridicules. Et putain, il n'y a pas un épisode où ça ne te dit pas un truc où tu peux pas avoir une discussion philosophique dessus, quoi. Donc,
pour l'instant, John Carter, à part le dernier qui m'a vraiment époustouflé.
Et encore, c'est
là,
un truc, tu vois, c'est ce que tu vois, ce que ça dit, c'est ce que tu vois.
Oui, mais au moins, tu peux en parler. Tu peux en parler derrière, ce qui n'était vraiment pas le cas des autres épisodes de John Carter.
Moi, j'ai envie, et surtout quand tu as une question surnaturelle, quoi. Je veux dire, on est en train de parler quoi ? On est en train de parler de l'armement, d'armes dangereuses. Parlons du rapport à la paranoïa et à l'armement. Et ce que ça veut dire, et en plus, ça serait contemporain aussi, c'est une fois de plus, c'est exactement ce que fait Age of Ultron. Pour le coup, il y a de quoi dire, faire des trucs. Bon, enfin bon. Donc, Agent Carter saison 2, mais je vais continuer. Je pense qu'on fera, je ne sais pas si on en fera la prochaine fois jusqu'à la fin ou si on fera deux étapes, selon l'intérêt ou pas.
Ouais.
La prochaine fois, on fera un bilan de la saison avec comment ça aurait pu être encore mieux. ou autre chose. Bon. Vient le moment tant attendu. She's a crazy ex-girlfriend.
Lucifer.
Tais-toi. Avant de parler de Lucifer, vous avez remarqué, chers auditeurs, poditeurs. T'as vraiment dit le mot poditeur tout à l'heure?
Ouais.
C'est un truc qui se dit dans l'intelligence podcast.
Je l'ai déjà entendu, je me suis dit, tiens, si je l'utilisais.
Donc, nos chers poditeurs remarqueront que j'ai gardé Lucifer pour la fin, pour que vous puissiez directement passer... cette étape et arrêter le podcast. Donc, je vous dis tout de suite, laissez-nous des commentaires. Donc, on va parler de Crazy Ex-Girlfriend. Alors, on n'a pas vu beaucoup des. Enfin, j'en ai vu plus que toi, mais on a eu un petit retard. Du coup, on va parler que de deux épisodes. Donc, deux ou trois ? 9 et 10 ? 9, 10, 11 ? 9 et 10.
9 et 10.
9 et 10. Qui sont. Fais-nous plaisir avec ton joli accent.
Oh, merci, c'est gentil. Going to the beach with Josh and his friends. Et I'm back at camp with Josh.
Parfait. Je viens de manger le micro, du coup, pour la peine.
Ah, vas-y.
Alors, déjà, je voudrais dire que j'ai l'impression que la Terre entière est d'accord avec moi sur le fait que Crazy Ex-Girlfriend est quand même une des séries importantes de l'année. Et je tiens à le redire, même si j'ai dit à chaque fois qu'on a parlé de Crazy Ex-Girlfriend, je le répète, j'avais raison. Voilà, bon, maintenant c'est fait.
Tu le dis comme ça ? Parce que ça fait peur un peu.
Mais ça montre que je suis lucide sur le caractère complètement maléfique de cette réflexion.
Ça fait un peu l'exorcisme, que j'avais raison.
Oui. J'ai regardé l'épisode d'exorcisme de Angel hier, c'est pour ça. I've got you under my skin. C'est vraiment le titre de l'épisode en plus. C'est super, c'est génial. Alors, je dois dire que sur ces deux derniers épisodes, les chansons m'ont moins intéressée. Au niveau musical, surtout, c'est-à-dire que je les ai trouvées bien, mais je n'ai pas eu envie de les chanter. Je ne les ai pas encore appris par cœur. Donc, cet épisode sera sans chanson. Il est entièrement possible que ça soit juste parce que Hamilton a complètement pris d'assaut mon cerveau musical et que du coup, tout ce que je fais, c'est écouter et chanter Hamilton. C'est entièrement possible.
Pour quelqu'un qui n'écoute pas Hamilton, ce qui est mon cas, ça m'a moins marqué. Enfin, les chansons m'ont moins marqué que précédemment.
Donc, ce n'est pas juste la faute d'Hamilton. D'accord, c'est bon.
Je ne pense pas.
D'ailleurs, j'ai vu une photo de Rachel Bloom avec Lin-Manuel Miranda après avoir vu Hamilton. Ah, c'est trop cool. En même temps, attends, mais tu sais qu'il y a eu tout un, je sais plus quel site qui a fait tous les gens qui sont allés voir connus qui sont allés voir Hamilton.
Oui.
Une photo de Eminem en backstage. Eminem est allé voir Hamilton à Broadway. genre wow. Après, c'est pas enfin franchement, c'est pas innocent vu le genre de type d'écriture. C'est en fait exactement le style d'écriture d'Eminem, donc c'est tout à fait normal. Mais je m'attendais pas à ce qu'il aille à Broadway, en fait. Ça me perturbe. Enfin bon. Je suis une grande fan d'Eminem, je tiens à le préciser pour nos auditeurs qui se demandent pourquoi je dis ça. Donc les chansons sont moins marquantes, on est bien d'accord. Mais en même temps, c'est pas grave. Je pense aussi parce que c'est le scénar est assez est un peu plus musclé sur au niveau de ce que ça dit psychologiquement, de l'évolution psychologique. Je sens un truc un peu plus, justement parce qu'on entre dans un mode un peu plus complexe, de pas juste bla.
Ça part moins d'une anecdote de la vie qui est amplifiée par plein d'éléments et par les chansons et tout ça. C'est vrai que du coup les enjeux sont un peu plus forts sur ces deux épisodes là.
Même si c'est vraiment une écriture, enfin c'est il y a un déroulement qui se passe plus.
L'épisode de la plage, je l'ai trouvé un peu moins bon personnellement. Je trouvais des trucs vraiment intéressants. Après, moi j'ai vraiment un gros problème avec le personnage de Valencia.
Alors c'est rigolo parce que j'ai plusieurs réflexions là-dessus. Donc déjà je voudrais dire que l'épisode de la plage, je trouve que la première moitié est un peu, j'ai beaucoup aimé le début. Tout simplement parce que voilà, il y a pas de mystère hein. Quand tu t'accroches à une série comme moi je m'accroche à cette série comment dire, il y a quelques petits points communs entre moi et cette chère Rebecca, je ne dirai pas lesquels, à vous de deviner.
On va faire un jeu concours.
Voilà, donc à votre avis, j'ai quoi en commun? Je vous donne un indice, je ne suis pas avocate. Mais voilà, je ne suis pas allée à Harvard, je n'ai pas fait de brillantes études, je n'ai pas bossé comme une tarée dans ma vie, c'est pas vraiment ça. Le reste par contre, et notamment la problématique vis-à-vis des rapports sociaux et des amis, et de est-ce que c'est... maintenant je m'en suis un peu remis, mais pendant longtemps c'était la question de... d'idéaliser le type d'amitié que les autres ont, et notamment les groupes.
La notion de groupe, oui, tout à fait, oui.
Qui est un truc au jour d'aujourd'hui encore, si tu veux avoir une angoisse existentielle, tu me jettes au milieu d'un groupe et je fais Donc voilà, même si ça s'est amélioré, c'est quand même des fois ça fait un peu peur. Donc ça m'a beaucoup plu. Ensuite, je trouve que c'est un peu lent à démarrer. J'aime l'idée de la danse, du pole dancing, et en même temps, je l'aime pas.
Je comprends.
Parce que je trouve ça... non, je trouve ça aucun sens, en fait. Je trouve ça bien que ce soit pas grave de faire ça, et en même temps, je trouve que ça a aucun sens. Il n'y a aucune logique de faire ça à ce moment-là, pour elle, pour le personnage, donc voilà.
C'est juste pour récupérer l'attention, et c'est pas vraiment...
Non, et puis surtout, quand t'as ce genre d'angoisse vis-à-vis de toi-même, tu vas pas faire un truc comme ça, justement, parce que t'as peur de faire un truc comme ça. Je trouve que et ça va continuer après, sa relation avec Greg se complexifie et devient de plus en plus intéressante, parce qu'il y a quand même le côté où, même si elle veut pas Greg, le fait qu'il tout d'un coup il soit maqué avec sa voisine, c'est compliqué quand même. Enfin, maqué, on verra, j'exagère, mais bon, quand même. Le fait qu'elle se sente rejetée, qu'elle fait le party bus, elle invite les gens et elle se retrouve toute seule et qu'elle accepte que son patron vienne. Et elle commence à parler avec lui, ou elle commence à parler avec White Josh. Et en fait, il finit par parler avec l'autre et elle se retrouve quand même toute seule. C'est vachement triste. Et j'ai vu l'épisode avec ma meilleure amie et une autre amie à nous. Et c'est très drôle parce que ma meilleure amie, on s'est regardé à ce moment-là, on a fait genre, mais clairement quoi, ça c'est un truc qu'on vit assez régulièrement. Alors je sais pas si on est des... Je sais pas c'est quoi le problème, mais en tout cas, ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie d'être dans une soirée et tout d'un coup plus personne n'est en train de me parler. Et c'est juste que t'es là, ok. Et Marine me fait, oui c'est pour ça, soit j'y vais avec toi, soit je me barre. Et justement, au sujet de Valencia, j'ai eu la même réflexion. En plus parce que tu m'en avais déjà parlé avant que je regarde l'épisode, et j'ai regardé avec une amie qui s'appelle Marie, et qui c'est compliqué à dire, mais en fait Marie est très jolie et elle a eu une adolescence aussi un peu paumée comme la mienne ou celle de Marine, mais je pense quand même qu'elle a été un peu plus, tout petit peu plus populaire que nous. Alors que nous on était vraiment les deux nerds de la classe, et on était au lycée ensemble, et je pense que du coup on a vécu des trucs avec des nanas comme Valencia. Et on l'a vécu aussi adulte. En plus, Marine,
aussi adulte.
Elle bosse dans la mode, dans un magasin.
D'accord.
Et elle voit ça tous les jours à déjeuner, quoi.
D'accord.
Et en fait, je pense qu'il y a un truc... Alors, c'est un double truc. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a la problématique du fait que c'est des types de relations et d'interactions que tu as entre nanas. et que moi et Marine et d'autres amis que j'ai qui ont qui ont eu aussi une période d'adolescence où il y avait vraiment un truc. Mais je pense que c'est, enfin, Marie, elle est pas française en fait. Je pense que c'est pire. Mais elle a fait un an au lycée français. Enfin, je pense qu'en France c'est particulièrement pesant. La hiérarchisation, c'est très. C'est, en fait, ça ressemble au cliché des lycées américains dans les séries,
ouais.
Qui est en fait pas vraiment la réalité des lycées américains. Où il y a beaucoup plus d'activités de groupe et de trucs où il y a une plus grande flexibilité sociale. Mais dans les films, tu vois, les Mean Girls et tout, oui. Là, en classe de terminale, il y avait 3 Mean Girls et elles me traitaient comme de la merde.
Ouais. Et c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est que oui, pour une lycéenne, ce genre de comportement me choque pas. Mais là, bon, après, tu dis, t'en as vu à l'âge adulte aussi.
J'en ai vu à l'âge adulte, mais je pense que j'y suis particulièrement sensible à l'âge adulte, même quand elles sont parfois passives-agressives,
ouais.
Parce que j'ai le trauma de l'adolescence.
Oui, bah oui, bien sûr.
Et justement, pas pour rien, Valencia, dans cet épisode, elle fait toute une chanson sur les rapports passifs-agressifs entre nanas.
Ouais.
C'est-à-dire qu'avant qu'ils aillent à the beach, qu'ils aillent à la plage, ils commencent par avoir ce moment où elle fait cette chanson de... Tout, comment dire une saloperie, et c'est hyper drôle parce que t'as plein de nanas autour et elle fait ouais, entre nanas faut se soutenir, entre nanas faut être là, et d'ailleurs franchement, enfin, je sais plus ce qu'elle dit, mais c'est des trucs et c'est tellement des vrais trucs. Et j'ai une amie journaliste, il me semble, qui a une fois été dans une conférence de rédaction avec d'autres journalistes de magazines féminins qui lui ont fait une réflexion genre je t'admire tellement, moi je peux pas m'empêcher de me faire un brushing tous les matins ou un truc comme ça, tu vois. Ou genre, moi ça m'est déjà arrivé dans les trucs de moi je peux pas m'empêcher, moi j'arrive pas à pas porter de talons. Tu vois qu'il y a une façon de te dire, t'as tellement de courage de venir sans talons. Et t'es là, ok. Ah, toi tu t'en fous, c'est bien, de comment tu t'habilles, ce genre de truc. Et donc oui, ça existe. Après, en réalité, je pense qu'elle a beaucoup plus de profondeur et de complexité dans cette série que ce genre de personnage n'a généralement dans les autres. Je m'explique. Le moment où elle dit « Il y a une partie de moi qui pensait que peut-être c'est moi qui délirais et que t'étais normale. Et en fait, non, t'es vraiment folle. » Le ouais. Fait même qu'elle dise « Il y a une partie de moi qui me disait « Ça se trouve, c'est moi qui délirais. » Enfin, le fait même qu'elle dise ça,
ouais.
Pour moi, ça montre que c'est un personnage...
Ouais. Sûrement. Moi, j'ai du mal à voir la profondeur dans ce personnage et c'est ce qui me gêne, en fait. Qu'elle soit atroce avec elle ou qu'elle soit passive-agressive. Oui, non, ça, un trait de caractère qui me choque pas. Après, moi, c'est le manque de profondeur du personnage quand il s'accorde à donner beaucoup de profondeur à des personnages sur lesquels j'attendais pas à ce qu'il y en ait. Le patron de Rachel dans...
Il s'appelle pas Rachel, c'est Rebecca.
C'est pas grave, on s'en fout.
Ouais, non, mais
attends, le sous-titre du podcast, c'est « On se souvient pas comment il s'appelle ». Tu vas pas me reprendre maintenant. Mais même lui, il a
comment
une profondeur.
Comment il s'appelle, ce mec? Putain, nous sommes encore une fois hyper bien préparés. Au jour d'Internet, nous avons quand même presque. Moi, j'ai un iPad, un iPhone, un MacBook autour de moi. Je suis pas foutue de savoir le nom du personnage. Tout va bien. Donc oui, je suis d'accord. Mais après... je te dis, moi, je trouve qu'elle en a malgré tout. Et non, mais après, moi, pour moi, c'est un exemple de problématique féministe, hein, que les nanas sont encouragées à être comme ça, et que du coup, voilà, produit de la société.
J'ai préféré le deuxième, en fait.
Ouais. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé le deuxième. J'ai beaucoup aimé le deuxième pour plein de raisons.
Le dixième de la série.
Non, alors déjà, ce que j'ai adoré dans le neuf, c'est quand même, c'est donc la fin. Le fait que quand elle fait sa confession, en fait, elle dit la vérité.
Ouais.
Même une vérité qu'elle ignorait elle-même. C'est-à-dire que, oui, elle est venue parce qu'elle était amoureuse de Josh, mais en fait, ce qu'elle dit quand elle dit « J'étais malheureuse comme les pierres et j'avais envie de changement » et t'en as parlé.
Oui, c'est très sincère.
Mais c'est pas seulement sincère, c'est juste sur sa vie. C'est la vraie vérité. C'est qu'en fait, Josh... Et en même temps, le fait qu'il y ait ce moment de l'acceptation qu'elle est amoureuse de Josh, et justement le fait que lui, il l'accepte.
Oui, il ne la juge pas du tout, au contraire.
Non, au contraire, il lui dit « Je suis tellement content, moi aussi j'adore Wes Covina, je suis tellement content que ça te plaise. » Il y a quelque chose de très sincère et très... Et surtout juste d'apaisant et de réconfortant. En fait, et puis surtout il y a le côté avec Paula, sa meilleure amie, quand qu'il en fait l'attend,
ouais.
Et qu'il lui et qu'elle finit par lui avouer oui, je suis amoureuse de Josh. Et il y a aussi ce côté que le fait même qu'elle n'ose pas se l'avouer pendant tout ce temps et que c'est aussi une série qui a l'impression qu'il doit s'excuser de vouloir parler d'amour,
ouais,
et de sentiments amoureux, comme si, ah, c'est pas un vrai sujet. Excusez-moi, hein, c'est le seul sujet qui concerne tout le monde sur Terre. C'est le seul sujet qui intéresse vraiment tout le monde. Donc, une fois de plus, arrêtez de dire que les trucs romantiques, c'est... Enfin, voilà, il y a personne qui s'intéresse pas à ça, quoi. Et du coup, enfin, peut-être en tant que film et en série, mais c'est parce que ils veulent pas, mais dans leur vraie vie, c'est le truc le plus essentiel. C'est encore, enfin, j'ai envie de dire, c'est plus essentiel que la guerre. Et d'ailleurs, la guerre est souvent, pour moi, inspirée par ça. Après, pas toujours l'amour de quelqu'un d'autre, mais et donc ça, j'adore. Et ce que j'aime beaucoup dans l'épisode d'après, c'est beaucoup plus, c'est moins ce qui se passe. Je trouve qu'ils ont un peu raté tout le côté. C'est intéressant, mais je trouve que le basculement est moins évident entre le fait qu'elle essaye de faire un speech sur empowerment aux filles et qu'en fait.
C'est l'inverse qui se produit.
Ouais, et qu'en fait, mais qu'en même temps, finalement, tout le truc, c'est putain, faut qu'on arrête de se faire traiter n'importe comment par les mecs. Et en même temps, cueillir cette chanson où en gros, comme, mais non, faut que tu sois jolie pour les mecs, enfin pour toi, ouais. Mais en fait, c'est pour les mecs. Et en même temps, ça en dit long sur la nécessité de comprendre que chaque génération a des problématiques différentes et que juger ces nanas pour être comme ça, c'est pas mieux que leur interdire d'être autrement. Enfin, tu vois, c'est l'un comme l'autre, c'est un carcan et le principe, c'est de pas avoir de carcan. Mais par contre, j'ai adoré tout le reste, les mecs. Tout ce qui se passe chez les mecs, chez le boss, Greg, qui s'avère avoir aussi des gros problèmes.
Carrément.
Et ça, c'est génialissime. Non, mais surtout tout le côté, le fantasme qui se tapait sur l'ex, en disant c'est la nana la parfaite pour moi, c'est elle dont j'ai besoin. Et au moment où elle dit, ah, c'est trop cool, on peut être ensemble, je sais pas quoi, et lui, genre, ah non, non, mais. Il commence à paniquer. Non, et puis à la fin, quand il dit qu'il a acheté le livre Commitment for Dummies, et dit, alors en plus c'était dans le panier des livres gratuits, donc je pense que c'est un très bon livre.
Non, mais j'ai bien aimé tout le truc sur la difficulté de parler d'une génération à l'autre est quand même plutôt bon, plutôt même très bon. Ouais, et puis la façon de retourner à un endroit qu'on a connu quand on était enfant, dont on a une certaine vision, dont on espère une certaine attitude venant des gens, comme si ça avait pas bougé en fait. Mm-hmm. On retourne à un endroit, on se dit bah c'est exactement pareil, sauf que bah non, les gens sont pas pareils, les habitudes sont pas les mêmes, et donc il y a un petit côté un petit peu, il y a un petit désenchantement aussi, je pense, de la part des personnages, et on le ressent bien en fait. Et non, je l'ai trouvé très bien construit pour le coup. Il n'y a pas de passage où je me suis dit non, c'est un peu n'importe quoi au niveau de l'attitude des personnages. C'est très logique. Ça suit vraiment. Ça respecte bien les personnages, un peu moins que dans l'épisode précédent avec l'histoire de la pole dance où moi non plus j'ai pas compris d'où ça sortait. Mm-hmm. Non, j'ai préféré celui-là. Après, voilà, moi j'ai pris du retard sur Crazy Ex. Je m'en veux.
C'est pas grave, tu vas rattraper.
Mais j'ai rattrapé.
Et qu'est-ce que tu as pensé j'ai pensé à un truc aussi, c'est il y a quelque chose aussi d'assez fort qu'on voit depuis le début de la série, à quel point en fait Rebecca est en train d'apporter quelque chose à Josh. Et en train de changer la vie de Josh en lui donnant l'affection et l'attention et le soutien dont il a besoin, que lui donne pas spécialement Valencia. Et c'est rigolo parce que c'est ça en fait, être aimé, ça peut aussi avoir cette conséquence là. Mais après ça se complique dans les épisodes suivants.
Et
j'ai vu 11 et 12, et j'attends 13 et 14. Et du coup, ça se complique et il y a des choses. Et là, je suis vraiment en interrogation sur où ils vont et ce qu'ils veulent en faire. Parce qu'il y a des choses bien et en même temps, il y a des choses où je suis. Où j'ai l'impression qu'elle va trop loin. Et du coup, c'est un peu le truc dont j'ai peur depuis le début en fait.
D'accord.
C'est le fait que Rebecca commence à vraiment se comporter comme une crazy ex-girlfriend où je dis mais non, c'est bon, personne ferait ça quoi.
Ouais.
Et
t'as peur qu'elle se Ally McBeals.
Exactement. C'est très 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 bien.
C'est un gros risque.
C'est très juste. Risque. Mais c'est intéressant, c'est qu'il y a tous les autres personnages quoi, qui sont vraiment super.
Ouais.
et notamment Paula, et il y a des trucs avec Paula dans les épisodes suivants qui sont vachement bien, il y a des trucs avec tous les personnages qui sont vachement bien, mais en fait c'est surprenant et c'est inattendu. Non, qu'est-ce que tu penses de White Josh? Bon, déjà, oui, j'adore le fait que le quatrième pote, ils ont dit ouais, mais de toute façon tu vas pas te réveiller comme d'habitude, à la fin de l'épisode tu vois qu'il est qu'en fait il a dormi.
Ah quoi, avec le truc avec le patron?
Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Bah, j'étais assez surpris en fait, et je trouve que ça fonctionne bien. En fait, moi je trouve que ça fonctionne vraiment bien, quoi.
Bah quoi? Non, mais justement, qu'est-ce que t'as vu? Parce que justement, c'est la spéculation, c'est que tout ce qu'ils font, c'est un hug et ils s'embrassent sur la joue.
Ouais, enfin pour moi, il y a un peu plus, mais.
Oui, non mais c'était ma question parce que justement.
Ah mais pour moi, clairement, il y a quelque chose. Ouais.
Et
ça m'étonnerait pas que ça aille dans ce sens-là.
Et ça t'a surpris?
Ouais, je m'y attendais pas. Oui. En effet. Ouais.
Et moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, surtout ce qui est vachement bien, c'est qu'à la fin, quand t'as Paula qui leur dit que des fois, un bisou sur la joue, ça veut tout dire.
Oui, ben oui.
Et lui qui fait, ah bon, c'est vrai? C'est super mignon. Et alors moi, à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que White Josh, il fait ça complètement, alors est-ce qu'il fait ça complètement naïvement sans s'en rendre compte et parce que juste il est complètement il a l'air un peu teubé et du coup il se rend pas du tout compte de ce qu'il est en train de déclencher et pour lui ça veut rien dire, ou est-ce que tu crois que il y a autre chose derrière?
Moi je pense qu'il y a quelque chose derrière. Je pense qu'il est teubé, oui, ça c'est clair. Mais je pense que c'est sa façon naïve d'ouvrir la possibilité, quoi. C'est juste bon, allez, zou, hop.
D'accord.
Je pense, hein. Je peux me gourer.
Parce que hein, la scène, on n'en parle pas dans l'épisode d'après, je pense, mais là, dans l'épisode suivant,
d'accord.
La scène où finalement le truc est confronté, j'étais hyper surprise de ce qui se passe et de.
D'accord.
Donc tu me diras ce que toi t'en penses.
Bah, carrément, oui.
Et ça vaut le coup. Et je pense que c'est en train de devenir la storyline qui intéresse tout le monde. J'ai vu un article passer sur Twitter tout à l'heure. C'est clairement le truc qui intéresse tout le monde, mais parce que c'est vachement bien. Et White Josh, en fait, il est super, cet acteur.
Ouais, il est vraiment très bon. Ouais.
Mais dès le départ, en fait, le mec qui s'appelle White Josh, je trouve ça tellement génial. Et. Because I'm white. And also because your name is Josh. Donc ça c'est très très bon. Donc Paula c'est très très bon. Je me suis arrêtée sur qu'il y a un cliffhanger à la fin du 12 et j'avoue que je suis impatiente de savoir ce qui se passe. Mais non, beau travail d'écriture et surtout tentative d'aller dans la complexité des personnages. Enfin Greg qui était le gentil machin. Enfin depuis le début, on se rend compte qu'en fait il est en plein mode auto-sabotage de base et qu'en fait c'est aussi pour ça qu'il a ce truc avec Rebecca depuis le début, exactement comme elle a le truc avec Josh. C'est parce que c'est une situation simple et en même temps, tu vois, dans l'épisode suivant, je pense que ça pose vraiment beaucoup de questions sur exactement la nature du lien qu'il a avec Rebecca. Donc voilà, ça continue à être et en plus, enfin, ce qui est rigolo, c'est que s'il y a des trucs drôles, mais en fait, c'est pas parce que c'est drôle qu'on regarde, quoi.
Non. Et puis c'est assez surprenant parce que c'est le genre de série qui fait rire sur le moment, et quand tu y repenses, enfin moi, ça a tendance à me déprimer plus c'est qu'autre clair. Chose.
Quand tu y repenses, tu ne vois pas du tout ce qui était drôle.
C'est déprimant. Non, mais c'est preuve que c'est réussi, étant donné que c'est quand même la thématique et l'axe principal de la série, c'est de parler de la dépression quelque part. Donc si t'y repensais et que c'était un petit peu désuet et juste drôle, je pense qu'ils passeraient à côté de leur sujet.
Mais en fait, c'est rigolo parce qu'ils ont, une profondeur psychologique que, tu vois, pour le coup, et John Carter n'a pas, quoi.
Ouais. On verra.
Bon.
Je vais me coucher.
Non, maintenant tu vas m'écouter parler de Lucifer. Non, je vais parler rapidement, mais je trouve ça intéressant de parler de Lucifer.
Un enquêteur d'enfer. Ça sera pas ça le titre en français.
Alors, je voudrais répéter les trucs que j'aime chez Lucifer.
Vas-y.
Le fait que Lucifer n'essaye absolument pas de cacher son identité et systématiquement dise à la nana qui lui dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Elle dit « Mais je t'ai dit, je suis le diable. » « Mais pourquoi ?» Elle dit « Mais tu comprends pas, je te l'ai dit 12 fois. » Et le fait qu'au bout de 5 épisodes, à chaque fois, et en fait, elle essaye même plus de lutter, mais en même temps, lui, il est là. C'est bizarre quand même, je dis les choses, je les répète. Et donc ça, c'est poussé de façon assez loin au fait que dans l'épisode 4, à la fin de l'épisode 4, il lui dit de lui tirer dessus pour prouver que il est invincible et que oui, c'est voilà. Et en fait, elle lui tire dessus et il se fait blesser. Et je sais pas exactement ce que ça veut dire. Ah, tais-toi. Ne te moque pas. Non, c'est rigolo parce que ça veut soit dire que c'est que elle qui peut le blesser parce qu'elle a clairement un rapport particulier avec lui, ou en général qu'il est en train de devenir
en fait, tout
vulnérable
est un délire,
et humain.
Et en fait, il est pas du tout le diable.
Non, c'est pas
tout
ça.
Tout est dans sa tête.
Mais non, ça c'est pas intéressant. Les trucs tout est dans sa tête, même dans Buffy, c'est pas intéressant. L'épisode est bien, mais après ça a pas d'intérêt au-delà de ça. Où il y a le côté, c'est elle, soit elle a la capacité, soit il est en train de devenir vulnérable. Mais je trouve Lucifer absolument charmant déjà parce que l'acteur est charmant. L'actrice, j'étais pas trop sûre de ce que j'en pensais. Sauf que entre-temps, j'ai une grippe. J'ai passé une semaine enfermée chez moi et je suis tombée dans la franchise Chicago.
Mon Dieu.
J'ai vu presque deux saisons de Chicago Fire. J'ai regardé donc tout le début de la saison 1 de Chicago PD. En fait, c'est parce que j'avais regardé Chicago Med et en me disant j'ai pas besoin de regarder les autres. Ils ont fait un putain de crossover où il y avait un épisode de Chicago Fire, un épisode de Chicago Med, un épisode de Chicago PD. Donc...
Chicago Catering, c'est pour quand?
De l'année prochaine, clairement. Et du coup, je suis tombée là-dedans. Et en fait, c'est curieux, j'en parlais à quelqu'un récemment en disant non, ce que j'aime bien, c'est que c'est, en fait, ça marche pas comme un soap, c'est beaucoup plus un procédural. Et là, je commence à lui raconter des trucs et il me fait c'est que des trucs de soap, ce que tu es en train de dire. Je dis c'est pas faux, mais comme, enfin, je sais pas. Toujours est-il que notre amie Decker de Lucifer est pendant 3 ans une des EMT de Chicago Fire. Donc maintenant, j'ai vu 2 saisons avec elle et je suis devenue fan.
D'accord.
Et merde, je suis dans la galère. Donc voilà, donc j'ai cette raison-là. J'ai le fait que j'adore aussi le mec qui fait son ex. Parce qu'il a joué dans True Blood et il a joué dans Southland et je l'adore. J'adore le fait que la gamine soit fan de Lucifer. Lucifer! Ça fait beaucoup rire. Voilà. En gros, ça me fait beaucoup rire. Ça se prend pas au sérieux. Mmh. Et en même temps, ça prend au sérieux sa propre mythologie. Et le fait que ça paraît évident qu'un mec comme lui ne se cache pas. Et voilà. Ça paraît évident. À un moment, il se pose la question de pourquoi il est obsédé par elle et il se dit ben en fait c'est juste que j'ai envie de coucher avec elle probablement, enfin si je couche avec elle je démystifierai le truc, donc du coup il lui dit je pense que le mieux c'est qu'on couche ensemble parce qu'évidemment elle le prend pas super bien et il y a une espèce de comme ça de truc, donc c'est pas très logique mais c'est pas assez fun, c'est charmant. Il y a surtout un épisode que j'ai beaucoup apprécié où il y a un meurtre, où il y a une nana qui disparaît et la dernière personne qui l'a vue c'est un pick-up artist, c'est un spécialiste, un dragueur professionnel et qui fait des séminaires de drague professionnelle, tu sais, un peu comme dans Magnolia.
Oui.
Et c'est hyper drôle de voir Lucifer au milieu du séminaire qui dit mais ils sont fous, ils sont fous, ils pensent vraiment que traiter les femmes comme ça va marcher? Non mais franchement. Et qui finit par lever la main en disant oui d'accord mais moi je suis plein d'assurance, sûr de moi, roi du monde, et elle veut toujours pas coucher avec moi, qu'est-ce que je fais? C'était très drôle. Donc voilà, c'est plein de raisons pour lesquelles j'aime bien Lucifer, mais plus largement je pense qu'aucun de ces arguments ne t'a convaincu de regarder. On est d'accord ?
Je sais pas. Je me dis peut-être dans 4-5 épisodes, pas forcément reprendre du pilote, hein, mais un peu plus tard, tomber sur un épisode comme ça, pourquoi pas ? Ça se trouve, je me ferais prendre au jeu.
Mais en fait, je pense que c'est aucun n'est assez bon pour que je puisse te dire celui-là, il est excellent. Franchement, ouais. Franchement, entre-temps, j'ai préféré Second Chance.
D'accord.
Regardez, bien que là ça patine un peu, mais finalement je trouve que le début et les quelques premiers épisodes de Second Chance m'ont beaucoup plus marqué. Donc voilà. Par contre, ce que je peux te dire sur Lucifer, c'est que c'est un bon exemple, je trouve, du malentendu qu'on a entre ce qu'on attend d'une série et ce qu'elle essaie de nous donner. Et j'ai envie de dire surtout un malentendu chez nous. Mmh. C'est-à-dire que on critique maintenant tous les pilotes, toutes les séries, mais on critique tout avec le regard est-ce que c'est Breaking Bad, quoi. Enfin,
oui, non, mais.
Et je veux pas cracher sur Breaking Bad, hein. C'est juste que les attentes qu'on a vis-à-vis de chaque objet sériel,
c'est pas la même grille de lecture suivant ce que tu regardes. Faut juger un procédural selon les critères du procédural et pas juger le procédural par rapport à Mad Men, comme tu comment dire, tu considères pas Mad Men par rapport à Friends, comme tu considères pas Friends par rapport à Battlestar Galactica. Enfin, c'est, ça serait considéré comme au cinéma qu'il n'y a qu'un seul type de film et que tous les films sont jugés selon la même grille de lecture. Les séries, c'est pareil. Il y a mille et une façons d'aborder les séries. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Qu'est-ce qu'on attend de Lucifer ? Lucifer, c'est Castle. C'est,
absolument. C'est le cop, not cop.
Voilà,
c'est ce que je trouve génial comme concept.
C'est House, c'est ce genre de série-là.
Non, House, c'est...
C'est, reste une série d'enquête, mais avec...
Mais non, mais House, il y a une qualité d'écriture qui fait que c'était quand même exceptionnel. Là, clairement, c'est pas le cas. Mais c'est fun à regarder quand tu veux t'endormir ou quand tu veux faire à manger. Non, mais, c'est, mais en même temps, moi, oui. C'est ce que j'aime dans les séries aussi. J'aime les séries parce que j'aime regarder la télé, regarder des trucs qui sont divertissants, où j'ai pas besoin de comprendre tout ce qui se passe dans l'histoire. Je regarde quand même toujours The Mysteries of Laura.
Et en plus,
Nombre de trucs honteux à la seconde.
J'essaye de ne pas faire attention, tu vois, je ne veux pas stigmatiser.
Mais surtout, je suis en train de réaliser que je suis en train de discréditer tout ce que je dis sur Buffy, parce qu'en parlant de toutes les mauvaises séries que je regarde, les gens vont croire qu'en fait j'ai des goûts
c'est
de merde.
Noyé dans le
Donc je tiens à dire que quand je regarde Mysteries of Laura, c'est aussi avec un quart d'œil ouvert, je tiens à le dire.
Non, et puis il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces séries sont nécessaires à l'écosystème des séries.
C'est vrai.
C'est que si, c'est quoi dire, hein, si t'as pas Lucifer, t'auras peut-être pas le prochain, pour citer un type de série qui éveillera tout de suite la qualité à tout le monde, t'auras peut-être pas le prochain Breaking Bad, parce que à l'heure actuelle, il y a peut-être un scénariste qui est peut-être assistant à l'heure actuelle et qui va gravir les échelons sur Lucifer, qui va devenir le prochain showrunner que tout le monde s'arrachera. On n'en sait rien, donc elles sont nécessaires à l'écosystème. Aussi,
c'est vrai, du travail à tout le monde.
Je ne vais pas dire mauvaise, parce qu'il y a bien plus mauvais que Lucifer. Et j'ai déjà dit qu'il y avait bien meilleur, mais il y a bien plus mauvais que ça. Et je pense que c'est une bonne série où apprendre son métier, parce que ça réclame de la rigueur, parce qu'en plus, il faut à la fois être drôle, parce que c'est une série qui veut être drôle par moment. Il faut avoir la rigueur d'une série policière, parce qu'il y a des enquêtes policières.
Plus il y a une mythologie.
Visiblement, il y a une mythologie, donc ça peut même former quelqu'un.
Pour l'instant,
quelqu'un
n'a pas grand sens. Hein,
mais... Non, mais peu importe. Ça peut former quelqu'un qui va sortir un Supernatural dans 10 ans. On ne sait pas. Donc, du coup, elle a plein de qualités presque. Pas forcément très très visible à l'écran, mais plein de qualités, juste son existence
oui,
est
ça.
Logique.
Elle a le mérite
quoi.
D'exister.
Elle existe et c'est bien que ça existe, c'est bien que
Et si ça se trouve, ça va devenir génial, si ça se trouve pas du
et
tout.
Et si ça se trouve, en saison 2, il va y avoir une sorte de revirement, la mythologie va devenir intéressante parce que peut-être qu'il y aura un nouveau ou une nouvelle scénariste qui va dire « Non mais attendez, il faudrait peut-être plus aller vers ça » ou quoi. On n'en sait rien. D'après ce que j'ai compris, 100, c'était un peu.
C'était dès le début, tout le monde a trouvé ça génial.
D'accord, moi j'ai entendu des échos.
Non,
comme
non, moi j'ai
début,
vu les 5 premiers. Non, j'ai vu les 5 premiers et dès l'épisode 3, j'étais là, wow! C'est juste, c'était dur parce que c'était des ados et c'était sur la CW, donc les gens avaient du mal. Mais la série était quand même déjà très très forte. Non, mais par exemple, Supernatural. Moi, avec le recul, j'ai toujours aimé les premières saisons, mais en fait. Avec le recul, c'est-à-dire que moi, je me rappelle très bien avoir eu des conversations pour la raison où j'en parlais, et j'essayais d'expliquer pourquoi j'aimais, et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus.
Oui.
Et en même temps, parce que il a fallu du temps pour que ça se révèle. Et moi, j'avoue que je vais attendre de voir. C'est Capinos qui a fait Tom Capinos, c'est ça son nom. C'est le mec qui a fait Californication. Californication, j'ai beaucoup aimé les 3 premières saisons, et après,
d'accord,
j'ai décroché.
J'ai jamais réussi à m'y mettre.
Il y avait un côté un peu trop glauque. Pour moi, mais du coup, on ne sait pas ce qu'il va en faire, on ne sait pas ce que ça va devenir si ça survit.
C'est pareil, on sent sortir le cliché, ah, ça se trouve, il sait où il va, il a un plan sur 5 ans, peu importe.
Mais c'est ça, c'est une mauvaise idée de toute façon, c'est un plan sur 5 ans,
mais est-ce qu'il a juste un plan sur la durée de se dire, j'ai envie d'emmener plutôt vers là, ne serait-ce qu'une vue, ça se trouve, dans l'esprit de Tom Capinos, on devrait être surpris en fin de saison.
Non, mais voilà. C'est aussi pour ça que j'ai envie de continuer à regarder Lucifer et que pour le coup, je ne vais pas rationner les épisodes comme les autres séries. C'est-à-dire qu'il est possible que dans le prochain matage de série, j'ai terminé Lucifer.
Allez, petite promesse. Prochain podcast, j'aurai regardé au moins un épisode supplémentaire de Lucifer.
Bah, surtout que vu que si on continue à parler 2 heures de chaque série, je pense que si on n'a que 3 séries dont on parle, c'est pas très grave. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé ces quelques heures avec nous. Je sais pas combien de temps ça fait, mais je pense qu'on en a pour un bon moment. Avant de partir, Arrête de rigoler, c'est pas drôle, c'est ta faute aussi.
Je ne regarde plus les compteurs depuis très longtemps. En fait.
Mais t'as raison, parce que vaut mieux pas, ça, c'est déprimant. Nous voudrions remercier Juliette, parce qu'elle est une, elle est un membre exceptionnel de l'équipe.
Merci Juliette.
Et elle s'occupe si bien du site et répond si gentiment à nos emails. Merci Juliette. On voudrait vous remercier, vous tous, de nous écouter. Nous sommes aussi friands de vos commentaires, opinions, désaccord même. Écrivez-nous sur le site si vous avez des choses à nous dire. www.icannotsitstill.com. Ça s'écrit ICANOTSITSTILL. Ou sur Twitter. Ou sur Twitter, @icannotsitstill, avec un seul L parce que l'autre était déjà pris. Ou individuellement, à Dominique.
It's the Dom, ITSZDOM.
Ou moi, ATLK, YAELKA. Et voilà, on a appelé plein de trucs quand même en l'espace.
Les chiffres et les lettres sur la
compte. J'adore cette. Bon, passons. Mais nous serions surtout super reconnaissants si vous preniez le temps de nous faire une gentille critique sur iTunes. Ça peut vraiment nous aider. Pour les critiques très très mauvaises, faites-les plutôt ailleurs. Merci beaucoup. Voilà, on vous retrouve bientôt. En attendant, bonne série.
A plus.
Putain, Nancy Reagan est morte.
Encore un mort sponsorisé par le monde.
C'est ça, cette alerte ne sert qu'à m'annoncer que les gens sont morts. C'est horrible.
Le niveau de l'angoisse quand il y a une alerte du monde.
Il y a deux types d'alertes dans le monde. Bon, il y a deux, trois fois des trucs politiques, mais généralement, deux types d'alertes, c'est quelqu'un a gagné un truc de sport dont je n'ai jamais entendu parler, ou quelqu'un est mort. Et en fait, ça me déprime, maman. Je vais juste désamorcer les alertes, le monde, c'est juste horrible.
Je t'imagine même pas le jour où quelqu'un qui a gagné quelque chose en sport va mourir.
Deux alertes.
Deux alertes sur...